bain de soleil à l'hôtel de la plage sur Verigout Cap Ferret. Le direct de l'été en plein village de l'herbe au bord de l'eau. De 8h du matin à minuit, on partage tous l'esprit cabane tendance et chic de l'hôtel de la plage. Buvez un verre, mangez nos produits frais, séjournez à l'hôtel de la plage et voilà, vous faites partie de la famille.
Et oui, bienvenue ici. Alors, cette fois-ci à l'hôtel Côté Sable, parce que cette semaine, nous vivons luxueusement. Figurez-vous que nous explorons les lieux les plus sympas de la presqu'île du Cap Ferret. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis par notre ami Pascal Bataille sur la terrasse de son hôtel Côté Sable. Et puis, bah, nous avons une merveilleuse table à laquelle nous rejoint à l'instant même Marc Simoncini, qui est en compagnie de Alexis Atteret. On va découvrir, bien entendu, ces personnages tout au long de l'émission. Clémence a fait la route pour nous rejoindre, alors que pourtant elle est supposée être garde-malade. Oui. Bravo, ma chère Clémence.
Oui. Tu lui feras une dédicace tout à l'heure.
Félicitations. Et puis, bien entendu, alors, monsieur Clémence s'est rompu le tendon d'Achille, figurez-vous. Allez. Ça fait mal, c'est pas très cool. Et nous avons bien entendu la merveilleuse Rebecca Hampton, qui est la surprise du jour. Nous ne savions pas qu'elle nous accompagnerait. Nous en sommes très, très heureux. Bonjour, Rebecca.
Mais bonjour.
Alors, Rebecca, qui, bien entendu, ne quitte jamais l'immense Pascal Bataille au sens littéral du terme, car il est très grand. Comment vas-tu ?
Ça va très bien. Ravi de vous accueillir tous sur la terrasse de Côté Sable, d'accueillir Marc, d'accueillir Alexis. Peut-être qu'un jour, on pourra d'ailleurs évoquer l'idée d'une expo photo, oui. Puisqu'on fait souvent des expos photos dans les locaux de l'hôtel. Okay. C'est une des prédispositions de l'hôtel, effectivement, depuis le début, depuis sa création, d'accueillir régulièrement des expos photos. Et puis Rebecca, malheureusement, on se quitte quand même de temps en temps. Malheureusement pour moi, évidemment, et heureusement pour elle. Ouais. Mais je suis bien heureux de l'accueillir comme plusieurs fois par an. Au Cap Ferret, quelques jours.
Voilà. Exactement. Et puis, bien sûr, l'inamovible Brutal qui nous tient compagnie. Car c'est ce genre de matinée qu'il adore, où il faut qu'il délocalise totalement le matériel de la camionnette, pas vrai ?
Petite transpiration du matin, mais c'est normal. Mais oui. On est bien, là, la terrasse est bondée, il y a du monde. C'est une super émission. Je pense qu'on va faire une belle émission.
Je le pense aussi. Ça cartonne, Pascal, dis donc. J'avais pas compris que le brunch, c'était devenu tendance ici.
Bon, il n'y a pas que le brunch. C'est vrai que le petit déjeuner marche bien cette année. C'est comme les insectes. Il y a des années à mouches, il y a des années à araignées, il y a des années à...
De ça, il y a des années à petit déjeuner, il y a des années à...
Alors, à nouveau, c'est un plat intime,
je sais pas,
mais... Oui, mais quand même, on vous a revu, j'ai envie de dire, sur la scène, on voit déjà beaucoup d'entreprises et pour vos interventions de vos domaines, que ce soit la dernière tour, mais grand public, un peu plus tard, c'est la mission de l'ESFA. Oui, on sait, quelques autres chefs d'entreprise, vous sélectionnez, donc les candidats, start-upers, et voyez s'il y a moyen d'investir ou pas, et ça a marché.
Ça a marché, sauf que les chanteurs, les entrepreneurs, donc ils sont posés pendant une heure devant nous, et on a une heure pour essayer
d'investir. C'est la sienne, donc, voilà. Après, ses valises pour les poser chez M6, c'est donc d'être utile. Exactement. C'est pas qu'on verra des petits trucs sur Instagram où ils disent qu'ils sont et que la peur qu'ils puissent placer un dans les arrivées de la gestation, mais en tout cas, vous demandez à Clément qui voit les tribunaux qui ont dit qu'il y a un peu de traité qui s'est autour de la seconde classe, c'est une cause sans but. Enfin, pour l'attention rapide, c'est genre un truc de Ramier et Carantone, mais plus en plus actrice. Hein, on la voit à l'affiche de nombreux des films. Elle a tourné avec l'ancien Laurent Ournac, c'est-à-dire moi, et ensuite, je crois qu'elle est en train de finaliser un autre.
Toujours sur M6.
Qui est comme titre. Quel titre ?
Nouveau jour.
Nouveau jour. Sa prochaine série un peu longue de M6. Monsieur Bataille,
c'est pour vous. C'est à ce moment.
Déjà.
Oui, ça passe en ce moment.
Excusez-moi, j'aime bien faire.
Ce que tu fais entre 11h et 13h.
Non, mais toute l'année, je vis là. Télé pas arrivé ici. Moi, non, mais
quand la télé arrivera, tu te rendras compte que ça a commencé depuis 4 semaines maintenant.
D'accord. Toi offrir-moi collier plastique, moi offrir-toi or et diamant.
Tout à fait.
Parfait. Mon cher Brutal, il est temps de te mettre en contribution et tu vas nous faire quelques petites rapides nouvelles du climat parce que ça intéresse tout le monde. Et direct après, on part dans l'émission.
Des nouvelles rapides du climat, tu veux dire rapport à la canicule ?
Ouais.
Et ce qu'on a dit hier, c'est quoi canicule ? C'est chaleur de chien ?
C'est ça.
Hein ? Voilà. Une chaleur de chien. Donc encore des températures étouffantes aujourd'hui dans le sud-ouest avant un nouveau pic de chaleur. Donc déjà qu'il fait chaud aujourd'hui, mais ça va encore remonter. Après un très très sensible redout ce mercredi, du moins sur la partie du sud-ouest, les températures vont repartir à la hausse en cette fin de semaine. Donc 70 départements placés en vigilance orange. 70 départements, ça fait quoi ? Ça fait quasiment les trois quarts de la France, ça. Donc Météo France nous dit cette baisse est donc très relative et provisoire, car de très fortes chaleurs sont à nouveau attendues de vendredi à dimanche sur la moitié sud du pays, avec 36 à 38 et jusqu'à 40. Bon voilà, la faute à qui ? La faute à une plume de chaleur. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas météorologue.
Une plume, tu sais ce que c'est, par contre.
Une plume, par contre, j'ai un petit peu plus d'idées. De l'air très chaud va ainsi remonter de l'Espagne et du Maghreb vers la Nouvelle-Aquitaine. Donc chez nous, particulièrement sensible au risque incendie, évidemment, depuis les grands feux de 2022, on maintient la vigilance rouge jusqu'à lundi prochain.
Okay.
Les feux d'artifice annulés, Les feux d'artifice du 15 août, évidemment, pour respecter l'interdiction. La vigilance, on vous rappelle, la vigilance rouge, ça interdit toute présence humaine de 14h à 22h dans les zones forestières. Rien, personne, que dalle. De même, la pratique d'activités sportives, ludiques et culturelles en extérieur est prohibée. Et aussi, ça c'est pour moi, fumer à moins de 200 mètres de la lisière d'un bois est interdit.
Même si c'est du belge.
Comment je vais faire ?
Okay.
Bon, voilà, il fait chaud, c'est un enfer et ça va continuer.
Ben voilà, merci beaucoup. Très rapidement, demain, parce que là, on a vraiment beaucoup de sujets à aborder tous ensemble, mais demain, je vous donnerai les programmes détaillés des fêtes de la mer qui ont lieu au canon sur la longueur du week-end. Je vous parlerai aussi vite fait que ce soir, vous avez encore une nocturne du phare. Donc Marc et Alexis, je ne sais pas si vous aimez parfois grimper sur ce phare qui est un petit peu quand même haut, mais dans lequel il est possible désormais d'aller faire quelques nocturnes. Tous les jeudis, vous y allez, vous vous inscrivez aux offices du tourisme de Claouet ou du Cap Ferret et vous avez une quinzaine, vingtaine de places, c'est assez contingenté, pour aller voir un coucher de soleil depuis le phare.
Très bien.
Donc ça c'est pas mal. Et puis également je vous donnerai plus de détails là aussi demain sur les horaires de l'UBA, puisque les navettes c'est quand même important. Il y en a 9 de sortes différentes qui desservent toutes les grosses cités du bassin d'Arcachon, des allées, des retours et puis aussi des excursions, des balades. Vous allez au banc d'Arguin sur la dune du Pila, manger le soir au coucher du soleil sur un bateau. Bref, vous pouvez privatiser aussi certains bateaux de l'UBA. Voilà, donc on vous donnera plus de détails là-dessus. Mais voilà pour la partie mission accomplie, chef.
Voilà, ça c'est fait.
Okay, allez, vas-y, fais-moi un jungle, n'importe quoi, ce que tu veux. Ben oui.
C'est le moment de chanter, Alexis, du coup.
C'est ça. Ouais. Bon, peu importe, laisse tomber. Alors, par contre, on aura, oui, on aura Joe Pisa, enfin Joe Luna, qui va revenir, notre ami gitan, à la guitare en or. Donc, il arrive, mais là, il est bloqué du côté de Claouet avec sa guitare, justement, dorée. Donc, je meuble, prépare-nous 2-3 jingles pour plus tard.
Non, et non, puis, c'est l'ordinateur qui souffre de la canicule.
C'est vrai.
C'est-à-dire que j'ai appuyé, et puis 30 secondes après, ils sont partis.
Eh ben, vas-y, ben, refais-le pour voir. Attends, on attend juste pour voir le délai.
Ouais, ouais, laisse tomber.
Tant pis, bah écoutez, on va faire le jingle nous-mêmes. Allez, on est parti pour l'entretien, ça me paraît important. Marc Simoncini, alors déjà, très content de se revoir parce qu'on s'est vu il y a 10 ans.
Et c'est ça.
Au Wharf.
Au Wharf, je me souviens.
Vous arriviez au Café Ray, vous alliez
pendre
votre crémaillère.
Oui, parce que je suis arrivé il y a 10 ans, exactement. Ouais.
Vous alliez pendre votre crémaillère, on avait fait une table avec Calogero, Dupuche, Georges. Ouais. C'était une mission déjà très sympa.
Ouais.
Donc, on va voir 10 ans après.
Je viens de croiser Dupuche qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai dit « Je vais faire Radio Cap Ferret ». Il dit « Mais t'arrêtes pas
!» C'était alors,
il y a 10 ans. Là,
sauf que maintenant, c'est Very Good Cap Ferret, parce
oui,
que Radio Cap Ferret
oui,
est mort. Ouais. Vous êtes bien placé pour savoir que certaines marques peuvent avoir des ennuis.
Oh là,
donc, effectivement,
oui.
La nôtre, on a connu elle aussi. Et puis donc Alexis, peut-être que Clémence pourrait faire votre présentation, parce que je suis désolé de vous le dire, vous êtes le moins célèbre de cette table.
Oui, mais un talent...
Mais pas le moins talentueux.
Mais pas le moins talentueux,
exactement,
c'est
exactement.
Ça. Comme quoi, ça ne veut rien dire.
Alexis, il a plusieurs casquettes. Il est photographe, il est directeur artistique, éditeur. Tu as une maison d'édition qui s'appelle Atterré Publishing, c'est ça. Tu es directeur de Surf Session Magazine.
En fait, j'étais graphiste et j'ai commencé à travailler avec des groupes de musique, des groupes bordelais, étant bordelais, et dont un grand groupe bordelais.
Lequel?
Noir Désir.
Ah, voilà.
Le grand groupe bordelais. Ouais,
le exactement. Grand groupe bordelais. Et du coup, j'ai fait des concerts avec tous ces groupes-là et j'ai commencé à faire de la photo à ce moment-là. Ensuite, quand arrivé, je me suis rendu au design graphique et plein d'autres choses. Et quelques années, je suis allé au Poissalandre et j'ai un petit mot qui était là.
Alors,
Et moi, c'est le moment où je voulais me mettre à la photo, donc comme tout, j'avais la chair. Oui. Et je comprenais absolument rien. Et il a eu la patience de m'expliquer pendant une demi-journée comment tout ça fonctionnait. Donc voilà, c'était mon premier pas dans le long chemin de la
photographie. Ouais. Et donc désormais, vous êtes un photographe assidu?
Bah non, je m'étais dit que j'étais bientôt à la retraite, que ça ferait une belle activité. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'à part les piquets, je sais pas quoi photographier. Je fais des ciels, moi, parce qu'ils sont branchés là, donc je fais des ciels. Un jour, j'y arriverai.
Après, cette grande maison avec ses plafonds incroyables et ses matières dingues, en faisant un petit peu de macro, en attrapant, je sais pas, un angle de mur, il y a des photos partout à faire chez vous.
Non, c'est que du bois, moi.
Mais le bois, ça a de la veine, ça a du nœud, ça a des reliefs, ça grippe, le bois.
Je peux faire ça.
Il est beau, votre bois.
Je peux faire ça.
On nous l'a toujours dit, Simoncini, là, très beau bois.
Dis donc.
Ouais. C'est vrai. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours des terrains communs comme ça qui réunissent les gens, des passions. Et effectivement, on a en commun tous aussi, excusez-moi, mais le Cap-Ferret, ou en tout cas la presqu'île de l'Ège Cap-Ferret, marque, donc on le disait, 10 ans. Qu'est-ce qui a amené un Marseillais à venir poser ses valises ici?
Alors, c'est une drôle d'histoire parce que moi, je vivais à Marseille. Et donc, j'étais dans l'eau du mois d'avril au mois d'octobre. Ouais. Et ma mère me disait, oh là là, tu prends trop de soleil. Il faut que tu ailles à la campagne. Ouais. Et elle n'avait rien trouvé de mieux que m'envoyer à l'île de Ré, où il y a encore plus de soleil qu'à Marseille. Et donc j'ai grandi 50% à Marseille et sur l'Atlantique. Et puis, donc j'ai construit une maison à l'île de Ré quand je me suis marié. Et puis j'ai divorcé, j'ai laissé ma maison à mon ex-femme et j'ai quitté l'Atlantique. Et un jour, je parlais à Georges. Ouais. Et il me dit, pourquoi tu t'installes pas au Cap-Ferret? Je dis, Cap-Ferret, c'est quoi ça? Et il m'a dit, c'est pareil que l'île de Ré en plus grand. Je dis, écoute, d'accord, trouve-moi un terrain et je vais m'installer là. Et je me suis installé ici un peu par hasard, sans jamais être venu. Donc j'ai acheté le terrain et je me suis retrouvé un jour le 15 août ici, là, parce que le GPS m'a déposé là. Il m'a dit, vous êtes arrivé? Je dis, c'est où? Et c'est comme ça que j'ai atterri au...
Très bien. Est-ce que vous êtes tombé amoureux?
Complètement. Alors, honnêtement, les deux premières années, j'étais mezzo. Ouais. Je ne comprenais pas trop. Il y avait plein de gens, plein d'endroits, plein de architecture et techniques. Donc, j'étais pas...
Que vous avez fait un petit scandale au Selfish sur la première ou deuxième saison où vous étiez là. Vous étiez à une table avec des amis, je ne citerai que les prénoms, dont Sarah et tout ça, qui vous félicitaient sur votre maison. Ah. Et vous étiez très... Oui, on verra. Peut-être que si ça ne me plaît pas, je dirai
ailleurs. Oui, je ne suis pas tombé amoureux. Voilà, c'est ça. Le coup de
foudre. On attendait de vous que vous soyez heureux à la première seconde.
Non, ça a été plus, mais je suis lent, moi. Et du coup, là, j'en suis tombé tellement amoureux que j'y vis désormais à l'année. On verra ce que veut dire à l'année, mais je me suis installé là et je vais à Paris le moins possible.
Très, très bien. Rebecca, Pascal, vous-même, vous êtes donc des collègues de travail, si j'ose dire, mais pas que, des amis aussi. Donc, c'est toi qui as proposé à Rebecca de venir découvrir la presqu'île. Comment ça s'est passé? Et elle nous dira après ce qu'elle en pense, bien sûr.
Oui, j'ai invité Rebecca et sa fille il y a 2 ans maintenant, la première fois. Ouais. Et c'est une Marseillaise aussi, Rebecca.
Oui, c'est ça.
Et donc, elle est habituée au beau soleil et au climat parfois un peu moins ingrat que le nôtre, qui est en tout cas... en général assez doux et agréable, mais peut être surprenant. Mais elle va vous le dire elle-même, mais je pense qu'elle a adoré assez vite cet endroit, et donc elle y revient régulièrement.
Donc c'est à ton initiative.
Elle est chez elle, à la maison, elle le sait, et sa fille aussi, qui est la grande amie et de la grande sœur, on va dire, de ma chienne Una. Donc donc
c'est ça.
C'est très agréable de les avoir toutes les deux.
C'est pourtant que là où il y a de la chienne, qu'il n'y a pas de plaisir.
Ouais, exactement. Ruquier sort de ce corps.
Si Ruquier pouvait sortir du mien, ça m'arrangerait. Mais voilà. Mais c'est une autre histoire.
Et j'en profite pour dire à Marc qu'on est très heureux que lui aussi il donne le bon exemple en s'installant à l'année au Ferret, ce qui est mon cas aussi, et vivre à l'année finalement ici, on se rend compte que c'est très agréable, surtout qu'on a la chance de pouvoir s'en aller quand on le veut. Mais et qu'en hiver, ça a un charme incroyable, insoupçonné. Alors faut pas trop le dire trop fort pour pas qu'il y ait trop de monde, mais Mais voilà, pour ceux qui nous disent moi j'aimerais bien vivre à l'année mais j'ai peur de m'ennuyer en hiver, il faut avoir un peu de vie intérieure, il faut avoir des petites passions, la photo, le bon vin, j'en sais rien, mais, ou les balades en forêt, ou le surf. Mais en tout cas, c'est tellement beau de vivre ici hors saison.
Très bien. Rebecca, alors vas-y, ton impression maintenant que Pascal a tout dit.
Alors maintenant qu'il a tout dit, je ne sais plus quoi dire. Non, moi je suis parisienne exilée à Marseille, donc je suis une Marseillaise de cœur. Ouais. Je ne quitterai pas Marseille parce que moi j'en suis très amoureuse. Ouais. En revanche, j'ai découvert le Cap Ferret en plein hiver, la première fois. J'ai adoré. Okay. On a passé des moments extraordinaires sous une pluie battante avec des paysages incroyables. On s'enlisait sur la plage. C'était magique. Tout ça avec Ouna et ma fille.
Et bien sûr.
Et nous sommes revenus en été. Là, j'ai découvert un autre Cap Ferret qui m'a énormément plu. Et c'est vrai que du coup, je me fais un plaisir de venir dès que possible. J'ai un peu beaucoup travaillé cette année, mais... Au moins, voilà, ce sont mes premières vacances, ça me fait beaucoup de bien.
Ah bah, tant mieux, on en est ravis. Et justement, les habitants que nous sommes sont toujours enrichis par l'arrivée de personnes de qualité. Alexis, lui, il est plutôt Côte Basque.
Non, je suis Cap Ferret au départ.
Ah ouais?
Oui, oui. Je suis au Cap Ferret depuis que je suis tout petit. En fait, on a de la chance d'avoir une jolie maison au niveau des Américains.
Ah, très bien.
La plage des Américains. Et Pays Basque depuis quelques années, du coup.
Bah, surf session, quoi.
Exactement. Exactement. Le siège est au. Alors maintenant, on est à Anglette, collé vraiment à Biarritz.
Vous êtes plus près de là-bas, là, sur ce bel immeuble?
On est près du port d'Anglette.
Très bien.
Oui. Exactement.
Bon, cool. Alors, il paraît qu'on a des petits soucis d'ordinateur et que donc pour lancer les pubs et les musiques, c'est compliqué.
C'est compliqué. Il a un énorme coup de chaud, l'ordinateur.
T'as remarqué qu'à chaque fois que je viens, c'est le bazar technique.
Tiens,
je suis chat noir. Ouais.
Un chat noir de 92
kilos. Arrêtez de venir, je vais faire comme Marc Simoncini, je vais laisser 10 ans.
T'es pas du genre à dérégler les montres.
Oui. Après, je peux réparer l'ordinateur, c'est un peu mon métier.
pas vraiment.
Là pour ça, quoi. Ah, mais là, il a charge processeur 300%.
Oui, alors on va faire, tu sais, comme si l'ordinateur marchait.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Alors, Jean-Luna va arriver plus tard, il nous fera quelques morceaux de guitare. En attendant, je vais faire les pubs. Alors là, normalement, il y aurait eu une publicité pour une société qui s'appelle Cispay. Et elle aurait dit que c'est une société qui arrive à faire des investissements pour tous les gens qui ont des conciergeries, des hôtelleries et qui font...
Ceci est un communiqué
je
Cispay.
Je me suis débrouillé
Cispay
avec ça.
Cispay est un pionnier des solutions de paiement en ligne, offrant une technologie financière innovante pour garantir la sécurité des transactions et la rapidité des paiements. Nous anticipons vos besoins pour améliorer votre rentabilité et alléger vos processus administratifs. De la réservation au check-out en passant par le check-in, le bar, le restaurant et le spa, optez pour Cispay pour gérer toutes vos transactions et consacrez-vous à ce que vous faites le mieux, accueillir le client et lui offrir une expérience inoubliable. Des centaines d'hôtels et de conciergeries à travers l'Europe nous font déjà confiance. Pourquoi pas vous? Pour plus d'informations, visitez notre site web et contactez-nous à l'adresse cispay.com.
Voilà, ça c'est pas mal. Ça, on fait une.
Et alors, t'en as une pour Côté Sable aussi, pareil?
J'en ai une pour Côté Sable. Tu la veux maintenant?
Oh bah oui, tant que ça marche, hein, profitons-en, mais c'est jamais.
Comme je suis pas comme d'habitude. Avec
tiens, vaut mieux
c'est
te
plus des pubs, c'est des écrans pubs sur Very Good.
Non.
Avec là, son clair. Propre bateau, pour vous balader sur le bassin, ses vélos et ses voiturettes électriques pour sillonner la presqu'île, l'hôtel Côté Sable vous emmène à la découverte de notre paradis. Côté Sable, le 4 étoiles du Ferret, ouvert toute l'année pour vous.
Il faut plus trop m'en demander. Si tu veux quelque chose, tu me préviens beaucoup à l'avance.
On est déjà pas mal. Alors justement, à propos de réparer les ordinateurs, Marc Simoncini, j'ai pourtant lu quelque part que vous étiez un très mauvais élève dans les premières classes.
Ah, j'étais pas un très mauvais élève, j'étais le plus mauvais élève. Mais j'avais un ou presque 2 ans d'avance à l'école primaire et je les ai
donc
tous
du temps
reperdu,
à perdre.
J'ai tout reperdu jusqu'à la terminale.
Donc vous êtes énervé après le bac, c'est ça? Après le bac D?
Non, après le bac, mon père m'a mis dehors.
C'est bien ça.
Parce que lui, il était vraiment très très carré voilà, sur les études. Ouais. Donc j'ai commencé dans les travaux publics.
Okay.
Passe ton
et
bac dehors.
Au bout d'un moment, j'ai dit ça va être compliqué les travaux publics avec les bras que j'ai. Donc j'ai essayé de trouver une école et j'ai fait les écoles par ordre alphabétique. Ouais. Donc il y avait F, je ne sais plus ce que c'était, G, gestion, je ne savais pas compter, H, hôtellerie, je me suis dit qu'est-ce que je vais foutre dans l'hôtellerie, et I, informatique. Et je ne savais pas ce que c'était que l'informatique, mais pas du tout. Et je me suis inscrit là,
bonne
et quand
idée.
Je suis arrivé le premier jour, j'ai vu des ordinateurs, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'informatique. Très bien. J'étais un assez mauvais informaticien aussi.
Alors on trouvera ces infos un peu partout parce qu'aujourd'hui on est un peu léger, on passe d'un invité à l'autre et puis on aborde plein de sujets. Mais en fait, voilà, Marc Simoncini, il a connu une carrière absolument incroyable parce que déjà il avait un jeune copain qui s'appelait Niel. Ils ont ensemble utilisé le summum de la technologie de l'époque qui s'appelait le Minitel. Ensuite, après, on est parti, pourquoi pas, sur des sites de rencontres. Enfin, je veux dire, il a, j'ai envie de dire, à la fois innové et surfé sur une espèce de nouvelle tendance. Des nouvelles technologies qui arrivaient, et puis il a bâti finalement toute sa carrière, toute sa vie et tout ce qu'on lui connaît de par cette espèce de non pas F, non pas H, mais I. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, parfois chercher la lettre et le reste.
Après,
suivra.
J'ai trois I dans mon nom, donc j'aurais dû me méfier.
Pas faux.
Mais la lettre et ou l'instinct aussi, parce que tu disais que tu n'as pas forcément de passion à la base, ou que tu cherchais quelque part. Et finalement, tu as réussi ensuite à créer des projets qui te passionnent, quoi.
En réalité, là, j'ai compris après, c'est que j'avais très peu de rigueur, mais beaucoup d'imagination. Mmh. Donc, ouais. Évidemment, c'est l'inverse qu'il faut à l'école. Mmh. Mais l'informatique, finalement, quand on réfléchit bien, on peut réaliser n'importe quel rêve avec un ordinateur. Mmh. Si on vous avait dit il y a 20 ans que vous allez parler dans un micro et qu'il va l'écouter dans une autre langue, vous auriez dit mais non. Mais oui. Si, on arrive à peu près c'est tout dingue. Faire. Ouais, donc, plus on a d'imagination, plus on est capable de créer des choses en digital.
Moi, je me rappelle un truc dingue que vous m'aviez dit il y a 10 ans et qu'honnêtement, je n'avais pas cru. Vous m'aviez dit que, en fait, quand je vais prendre mon téléphone pour appeler Amazon, en fait, ils savent déjà ce que je vais commander.
Avant vous, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'Amazon, en fonction de votre navigation, avant que vous ayez acheté le produit, ils l'ont déjà mis dans le carton.
Je compose le numéro et il y a déjà quelqu'un qui va chercher un produit que je n'ai pas encore commandé.
Ouais. Après Amazon Prime, Amazon Before.
Ouais. C'est comme ça qu'ils gagnent.
Donne-moi, amène, mets dans ma bouche.
C'est dingue, quoi. Ça veut donc dire qu'on est quand même spy à fond par tout un tas de choses par rapport à notre consommation et tout. C'est pas possible autrement.
Non, c'est l'usage que vous faites de votre portable, la manière dont vous scrollez, le temps que vous restez sur chaque feuille, chaque page, pardon, et donc ils savent exactement probablement ce que vous allez acheter. Ça s'appelle du big data et c'est l'analyse des données en temps réel.
Bon, tu tiens un beau Alexis, toi. Alors, qu'est-ce que tu vas nous en faire?
On va partir un peu sur le surf, justement, parce que vous surfez, Marc, tu surfes?
Alors non, je m'y suis mis trop tard. Ah, ouais. Et comme on m'a expliqué qu'il fallait 800 heures pour surfer et que je les ai plus,
je fais de l'e-foil.
C'est plus long que la photo.
Oui, voilà. Avec notre même coach, d'ailleurs, qui est
qui m'a
Arnaud.
Appris à faire.
Exactement.
Arnaud de Cruz,
qui nous a
appris à surfer. Du coup, je lui en ai acheté un et je passe ma vie sur le bassin. Et j'ai rencontré un copain hier matin sur le bassin aussi.
Excellent. D'accord. D'ailleurs, qui est un de nos partenaires, d'ailleurs. Qu'on salue, Cruz.
Ah ben, bien sûr.
Et j'ai testé aussi, ça y est, je me mets debout. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller en face, faire des allers-retours.
En fait. Et d'aller déjeuner en face et de revenir. Le retour est compliqué parce qu'il y a beaucoup de rosée.
Il paraît,
Et au retour, bizarrement, il y a des vagues. On ne sait pas pourquoi. Les vagues se lèvent après la troisième bouteille de rosée.
C'est là où tu travailles ton slalom.
Exactement.
Il faut quand même bien gérer sa batterie avec cette histoire parce que tu te retrouves en rade au milieu du bassin. Tu fais quoi avec ton
foil? Non, il gère.
Ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé accroché à une bouée en attendant le soir.
C'était pas une bouée, c'était une touriste hollandaise.
Bah, j'aurais adoré, mais non, c'était une bouée. Ou alors, elle était vraiment mal gaulée.
C'était une bouée.
C'est ça. Voilà. On parle de foil dans Surf Session.
Pas encore, mais il veut pas.
Si, on va en commencer à en parler. Alors, on a commencé par le foil, alors pas l'e-foil, mais le foil, on a eu un sujet comme Matt Echebarné, qui est un basque qui surfe les plus grosses vagues au monde, qui a fait Bellara, qui a fait Jaws et plein d'autres spots. Donc on traite du foil. Pas encore de l'e-foil, mais avec Marc, ça risque d'arriver.
Déjà, c'est la grosse vague d'Hawaï pour les néophytes, parce que monsieur parle comme si on était tous au courant.
Parce que ça se surfe, une vague, c'est-à-dire le surf traditionnel, on peut prendre une vague en foil.
Oui, alors le foil, il est tracté par un jet
pour lancer
et ensuite ça, ah ouais, ça
par
va
contre,
très vite.
Tu peux pas faire ton take-off comme...
Alors si, j'ai vu une vidéo comme ça, il s'était marqué impossible, et en fait, là, c'est une jeune femme, et elle part sur une vague en foil.
C'est ça. Ouais.
Bon, bah, c'est une sur 6 milliards.
Peut-être, mais en tout cas, dans ce cas, tu l'épouses.
T'en parleras dans les surfeuses, parce que du coup, t'as créé les surfeuses, t'as créé ce titre-là il y a 4 ans.
Oui, alors en fait, au départ, quand j'ai repris Surf Session, il y avait un titre qui s'appelait Surf Session Mademoiselle. J'aimais pas du tout le titre.
Mademoiselle n'existe plus.
Mademoiselle.
Et en plus, Mademoiselle n'existe plus. Et je voulais vraiment
plutôt que ce soit une sorte de hors-série, que les...
Que ça s'inscrive dans la durée, quoi.
Oui, qu'elles aient vraiment leur magazine vraiment dédié. Et il est réalisé en niveau de la rédaction par, alors sur ce dernier-là, par une surfeuse professionnelle qui s'appelle Marie Chauchet, qui a œuvré sur ce dernier numéro. Et le but, c'est un peu le magazine fait par des femmes et pour les femmes.
Pour les femmes.
Voilà.
Et il y a une touche que j'adore dans tes magazines qui change des autres, c'est que tu fais appel à des artistes aussi pour faire les premières de couverture, là notamment.
Oui, alors cet été, oui.
Tu essaies de casser un peu les codes en illustrant.
Voilà, alors, cette année, là, c'est un montage plutôt photographique, mais c'est Johan Fournier, qui est un artiste qui est au Pays Basque, qui a la chance d'avoir accès à des archives de photos de surf, qui n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, il travaille à partir de ces archives-là, avec des découpages, de la peinture. Voilà, c'est un petit fourre-tout et c'est assez agréable de voir son travail.
Qu'on retrouve à l'intérieur aussi, non ?
Il a un portfolio dans Surf Session, exactement. Ouais, exactement, ouais. C'est, voilà.
Vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu et c'est effectivement magnifique. Après, moi, j'ai une nièce surfeuse professionnelle à Biarritz et qui fait beaucoup de photos
elle
aussi.
Elle s'appelle comment ?
Elle s'appelle Margot Aramontuco. Oui. Ouais. Elle organise un festival plutôt dédié LGBT, etc. En septembre.
On a traité un sujet sur
le festival.
Ouais, exactement. Ouais.
Ah bah c'est cool. Très bien. Alors comme nos amis Hampton et Bataille sont timés, parce qu'ils ne peuvent pas rester avec nous la deuxième heure, c'est ça Pascal ?
Moi en tout cas, Rebecca, je ne sais pas, mais d'accord. Moi en tout cas, je dois partir.
Alors, Rebecca, elle peut rester avec plaisir. On préfère d'ailleurs que ce soit elle qui reste. Et
oui, je me doute.
Pour être très franc. Mais donc pour profiter des quelques minutes qui nous restent, on vient de parler de surf. Toi, tu es un vieux ferré-capien, on le disait tout à l'heure. C'est quelque chose que tu as pratiqué un peu toi aussi ou pas vraiment ?
Non, parce que à la différence de Marc, moi je me suis mis trop tôt. Non, moi je faisais partie du clan des voileux quand j'étais jeune. Beaucoup de voiles, beaucoup de dériveurs. Et il y avait le clan des surfeurs et le clan des voileux. On se retrouvait tous à 17h chez Frédalian, quoi qu'il en soit. Mais, mais voilà, donc j'ai pas fait de surf. Et aujourd'hui, j'ai un frère qui s'y est mis à 50 ans et qui marche, qui en fait très très bien. Mais j'avoue que j'ai pas eu le courage. Mais j'aimerais bien essayer le foil et l'e-foil. Et si tu permets, puisque Marc a parlé un peu tout à l'heure, mais. Très modestement, moi je voudrais saluer en parlant de surf la façon dont des gens comme Marc Simoncini surfent sur des idées pour faire des belles réussites parce qu'on retient quand on parle des Niel, des Simoncini et plein d'autres, on retient la réussite, on retient le type qui aujourd'hui affiche une santé florissante ou voilà, mais on oublie le travail qu'il y a eu avant, l'inspiration, la capacité à innover, à faire, comme il le disait, à imaginer, à surfer sur des tendances à peine émergentes et sans faire de corporate, parce que c'est pas trop mon style, tu le sais, mais je trouve que l'émission à laquelle Marc collabore...
Qui veut être mon associé,
qui veut être mon associé et qui permet justement à des jeunes entrepreneurs, et Dieu sait si en France on a besoin d'aider un peu l'entreprise, et Dieu sait si on n'est pas aidé, nous les entrepreneurs, quel qu'on soit, par l'État et par l'administration. Mais je trouve que cette émission et la façon dont Marc y participe notamment, c'est extrêmement utile d'aider, de mettre en lumière des gens qui ont des idées, qui ont aussi du courage, parce qu'il faut des coronets pour se lancer aujourd'hui. Voilà.
Exactement. Alors tiens, à propos de l'émission, puisque Pascal me tend le plat, quelles sont les meilleures idées que vous avez vues passer comme ça dans cette émission ? Alors il y en a eu certainement beaucoup, mais une ou deux qui vous auraient marqué ?
C'est celle dans laquelle j'ai investi, mais celle qui me vient, c'est une société qui s'appelle Helio Water et qui a développé un système de purification d'eau avec du soleil. Voilà, donc c'est un peu utopique, c'est très compliqué, mais à la fin, si on y arrive, il arrive à installer des fermes de production d'eau dans des endroits où il n'y a pas d'eau.
Okay.
Et voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de projet sur lequel moi j'ai des coups de cœur. Alors c'est très long, c'est très capitalistique, il faut des autorisations, tout ça est très compliqué, mais si on y arrivait. Je trouve que c'est un super projet.
Les pires idées ?
Il y en a tellement.
C'est pas les pires, mais c'est enfin, alors je vais mettre les pieds dans le plat direct, mais vous voyez deux jeunes filles arriver, et avant même que les filles se mettent à parler, vous savez qu'elles vont faire des cookies, du savon, des crèmes de beauté,
des bougies.
Ou des bougies. Et je dis, mais les filles, faites des fusées. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours ce truc de me dire, ah, alors encore un dossier cookies. Mais le pire que j'ai eu, c'était quand même la société spécialisée dans les problèmes de la ménopause. Où là j'ai dit les gars, moi je vais pas pouvoir vous aider quoi. Voilà. Donc non, il n'y a pas de pire idée.
Je reformule aussi celle qui vous est passée sous le nez. C'est un de vos collègues là qui l'a eu, alors vous auriez adoré la voir.
Alors je vais être tout à fait honnête, on fait pas cette émission pour investir dans des boîtes qui cartonnent vraiment. On peut pas en une heure, il y a une sur 100 000 qui réussit. Donc c'est vrai que c'est plutôt des coups de cœur pour aider des jeunes et des équipes. Ouais. On n'attend pas un retour financier de dingue de ces projets-là. Donc voilà, il y en a que j'ai raté parce que j'adorais le projet et il m'est passé sous le nez. Mais par exemple, des gilets anti-noyade, voilà, je trouvais qu'ici c'était chouette que les gosses aient des gilets qui gonflent automatiquement.
C'est nouveau comme concept, ça n'existait pas.
Non, ça n'existait pas. Donc c'est Flotty, c'est Anthony Bourbon qui l'a fait. Mais moi, voilà, je l'ai laissé passer celui-là.
Écoutez, ça peut arriver. Bon, en tout cas, c'est une émission que moi j'ai découvert assez tard finalement, mais sur laquelle on se laisse prendre rapidement.
Ouais, complètement. Hein,
on se dit, ah oui, oui, tiens, très bien. Et puis, tiens, c'est marrant, il y avait Tony Parker qui venait déjeuner l'autre jour. Là. Vous l'avez vu ?
Ah non, il ne m'a pas appelé, mais j'ai fait une saison avec lui. Ouais.
Bon. Qui sont les réguliers parmi les entrepreneurs qui vous accompagnent ?
Bah, les deux plus vieux, c'est Éric Larchevêque et moi, parce qu'on est là depuis le début. Ensuite, Anthony est arrivé. Ensuite, il y a Kelly Massol qui est arrivé. Ensuite, voilà. Puis chaque année, il y a un ou deux.
Kelly Massol, qui est un chypriote, bien évidemment.
Non, non, c'est une jeune femme qui a fait des shampoings pour les cheveux texturés.
Très bien.
Non, mais des soins, pardon.
Parfait, c'était Ruquier qui était encore rentré dans mon corps. Alors, je vais parler un petit peu plus, on va dire, sérieusement. Mais Marc, vous avez souvent dit que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc aujourd'hui, avec votre parcours, vous choisiriez comment vos combats ?
Alors, j'ai pas dit que c'était un marathon, j'ai dit que c'était un sport de combat qui peut durer 40 ans. Vous avez parlé des quelques succès que j'ai eus, super, mais... Il y a beaucoup plus d'échecs. Je me suis beaucoup plus planté que ce que j'ai réussi.
C'est ce que tout le monde dit.
La vraie difficulté de ce métier-là, c'est qu'il faut se relever une fois de plus et que parfois on est capable et parfois on n'est pas capable de le faire.
Okay.
Donc la principale qualité d'un entrepreneur, c'est d'être capable de se relever à chaque échec et de recommencer. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile. Un peu comme un boxeur qui prendrait un KO et qui, deux semaines plus tard, se retrouverait encore sur un ring. Parfois il gagne et souvent il perd.
Mais il n'y a qu'en France qu'on se moque des gens qui échouent. Aux États-Unis, les chefs d'entreprise successful, ils vous disent que si vous n'êtes pas planté une fois, c'est que vous n'êtes pas un bon entrepreneur, c'est que vous tentez rien, quoi. Vous ne tentez pas vraiment. Si on ne peut se tromper qu'en tentant et on ne peut échouer effectivement qu'en se trompant éventuellement. Mais il faut tenter pour réussir et il faut tenter. Et donc il y a des échecs au milieu.
Ouais, parce qu'ici ici en France, un mec se plante, on dit qu'il a raté, alors qu'aux États-Unis, il se plante, on dit qu'il est en train d'essayer.
Ah non, c'est encore mieux, c'est qu'en France, on supporte ni ceux qui réussissent, ni ceux qui échouent.
Ouais, t'as raison.
Finalement, j'ai réussi, on m'a reproché d'avoir fait du pognon sur Dieu sait quoi. Je me suis planté, on me dit ça t'apprendra. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est.
Ouais, alors, vous avez fait un truc plutôt clean d'ailleurs. Le milieu un petit peu des affaires profond me dit que vous avez balancé un communiqué il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn où justement vous assumez vachement quoi, c'est-à-dire que vous avez dit salut les gars, je suis là quoi. C'est pas fréquent.
J'ai perdu beaucoup d'argent, voilà, j'ai raté. Si ça avait marché, on aurait dit
oui, mais vous pourriez essayer de faire l'anguille. Là vous avez assumé.
Ouais, mais là je suis trop vieux pour faire l'anguille, vous savez quoi, je me plante, je le dis, je réussis, je le dis pas. Et voilà, et surtout maintenant je suis fatigué de tout ça et j'arrête. Okay, place aux jeunes.
Vive le café Rennes.
Exactement.
Clémence.
Toi Alexis, ce projet de Live Vision est un projet de rêve, qui est un projet que tu réalises de plus en plus, qu'on met de plus en plus dans la matière. On parlera de l'exposition tout à l'heure, qui est d'ailleurs une info en guest parce qu'on ne l'a toujours pas divulgué. Si tu avais un autre projet de rêve à réaliser ou quelque chose que tu aimerais faire ou un concert que tu voudrais absolument photographier ?
Pas particulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, d'abord dans mon métier de graphiste, c'est l'édition. Donc sortir de beaux livres, sortir de le travail de certains artistes, ça me plaît. Ça amène à des rencontres.
Donc j'ai pas un artiste plus particulièrement, je préfère éditer qu'un autre. Actuellement, je suis sur un projet avec un Anglais qui est dans la musique notamment, qui s'appelle Nate Bedford, qui est un super photographe de mode et également de musique. Et en concert, pas particulièrement. Il y a des artistes mondialement connus qui font des concerts très bien et des moins connus qui font des concerts encore mieux.
T'as une anecdote chouette à nous raconter sur un de tes moments justement de concert pendant ces 6 années?
Celui où on m'a prévenu avant, c'est Liam Gallagher. On m'avait dit ça peut éventuellement mal se passer.
Ouais.
Oh, c'est bizarre.
Pourquoi?
C'est étonnant.
Donc j'arrive à Londres, donc il était pas encore arrivé et les musiciens font les balances et puis j'étais avec son manager et on commence un peu à discuter et là il arrive avec son plus beau sourire, donc en fait il n'y en avait pas. Et il s'est mis à 5 cm de mon visage en me demandant qui j'étais, qu'est-ce que je foutais là. Et donc on lui a expliqué que j'étais photographe.
Who the fuck are you, man?
C'était un petit peu ça.
Ouais.
J'ai vécu à Bordeaux, j'ai eu la chance de vivre dans un joli château et quand je pars faire un shooting photo, quand c'est des grands artistes, j'amène une des bouteilles justement de...
Okay.
Ah d'accord, très bien.
Génial.
Voilà.
Pas bête.
Et alors il vient me voir, s'il m'entend parler, il me dit d'où je viens. Alors je dis je viens de Bordeaux. Alors j'ai eu droit à the fucking best wine in the world.
Et ouais. Il a pas tort.
Il avait pas tort. Non. Et je lui ai du coup offert cette bouteille qu'on a ouvert et bu dans des gobelets. Donc ça j'étais ravi.
Ouais.
Et voilà. Et le concert se passe et je me retrouve en backstage dans un coin pour trier les photos et surtout pour les envoyer. Et là il arrive vers moi toujours avec ce même sourire. Et il me ferme l'ordinateur d'un coup et il me dit maintenant j'ai bu peut-être le meilleur vin du monde, maintenant tu viens boire la meilleure bière du monde avec moi. Donc il m'a emmené au pub avec 3 de ses amis,
ouais.
Et ça a été une cata parce que dès que je parlais tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais un anglais assez pitoyable.
Bah, eux aussi hein.
Certains oui, mais
Manchester, bon, excuse-moi, mais ouais. Il faut un décodeur.
Donc je suis resté une heure avant de partir parce que ça commençait à être un peu pénible.
Bon, est-ce que tu as vu la photo qui traîne sur les réseaux depuis peu de temps où tu as Liam Gallagher justement avec un maillot des Girondins, lui qui est toujours avec un maillot de Manchester City évidemment, parce que si tu parles de United, il te tue. Mais du coup, il avait un maillot des Girondins collector et cette photo a fait des millions de vues parce que c'était la première et seule fois qu'on l'a vu avec autre chose qu'un maillot de Manchester.
Oui, bah, là, de toute façon, ça peut être que collector un maillot des Girondins.
Ouais, déjà. C'est... Ouais.
Donc,
message est passé.
Ouais. Oui, non, mais j'ai pas vu cette photo, mais je regarderai.
Il est assis. Il a un maillot Girondin vintage, un truc des années 70-80.
D'accord.
Vous avez un des meilleurs concerts que vous avez vécu ou vous partagez un concert génial que vous avez vu?
Moi, il y en a plein, mais je crois que alors, ça va vraiment faire, old school. Non, mais je pense que le concert le plus dingue que j'ai vu, c'est le dernier de Michael Jackson.
T'as eu la chance.
Ouais.
Ah ouais.
Non, mais putain, t'as raison, ça va être fou.
Ça fait plus classe que Rolling.
Non, mais voilà, mais c'est Michael Jackson, je pourrais sortir un truc plus récent, mais celui-là était tellement incroyable que...
C'est pas cliché du tout. T'as eu de la chance, ouais.
Ouais.
Et toi, Pascal?
Moi, ça remonte très très loin. Le concert le plus déjanté, le plus drôle que j'ai vu, c'est un concert d'un punk qui s'appelait Ian Dury.
Bien sûr.
Ah oui.
Sex and Drug and Rock and Roll.
Et voilà, depuis, je ne suis plus allé à un seul concert. Alors,
avant qu'on demande à Marc, vite fait, moi, c'était Nina Hagen aux Grands Hommes à Bordeaux.
Ah ouais.
Ouais.
Voilà une folle aussi. Ouais.
Marc.
Eh ben moi, alors ça fait vraiment old school. J'ai eu la chance d'avoir un billet au premier rang d'un des tout derniers concerts de Leonard Cohen à Paris.
Ah oui, magnifique.
Et il a chanté pour moi parce qu'il était là, j'étais là, il y avait la foule derrière et c'était extraordinaire.
On a passé un extrait de Suzanne l'autre jour. C'était la Sainte Suzanne, c'est pour ça.
Et toi, mon cher Brutal, qui est passionné de musique?
Ah, moi je me rappelle à l'île de la Réunion, il y a une espèce de scène éphémère qui est dans une ravine, ce qu'on
qu'on appelle une ravine, c'est-à-dire que tu as deux pans de montagne de chaque côté, la Seine au fond, les étoiles derrière. Et j'ai vu un petit Sud-Africain qui fait du reggae qui s'appelle LKJ Linton Kwesi Johnson.
Waouh.
Et c'était, voilà, je sais, il y a la lune derrière, les étoiles. Ça. Et voilà.
Là, c'est bon, on
est ouais, ouais, ouais. Frimeur. C'est un frimeur. C'est incroyable.
C'est dégueulasse.
Le nom, il faut aussi, moi.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, bah ouais. Ouais, ouais, ouais.
Lui,
ouais,
peut pitcher facilement. Hein,
Linton Kwesi Johnson,
et puis l'air de rien, tiens, tranquille, oui, excusez-moi, c'est un tout petit concert.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est un tout petit homme en plus. Alors, il est tout petit.
Figurez-vous que
nous
avons promis de libérer Rebecca et Pascal, donc il est de bonne compagnie qui ne se quitte, ai-je l'habitude de dire, et c'est le cas. Donc on en est désolé parce que c'était un très bon moment passé avec vous. Mmh. Pascal, merci encore pour l'accueil, bien sûr, dans ce beau lieu. Qu'on va tenter de respecter, enfin jusqu'à la fin de l'émission. Parce qu'après,
merci à vous d'être sur la terrasse. Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux avec tes invités. J'étais ravi de rencontrer Alexis, Clémence, enfin que je ne voyais qu'en vidéo, parce qu'elle préfère Saint-Tropez-Ferré, on le sait bien. Et Marc, voilà, on se croise, mais on ne se connaissait pas. Donc merci de votre accueil à vous et à très vite. Et longue vie, comme d'habitude, à Very Good.
Merci.
Merci beaucoup. Je vais merci tenter Pascal. De passer une petite musique, comme ça on va faire une pause.
Hein ? Allez.
Prenez un bon bain de soleil à l'hôtel de la plage. On y passe la journée, on croise tout le monde et puis on est heureux. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. To yourself, and now she's standing on foot in shoes. She had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. Diamonds. Candles rose and slide into the darkness. In an astral world so shines goody. The fortune that you see is the fortune that you need. The time for that is the last to be. What you say and you might be. Follow the close time. She had diamonds on the inside. She had diamonds on the inside. She wore diamonds on the inside. Change comes as you leap. The giver's name remains unbroken. She's just jealousy. She had eyes on the inside. She had to jump back inside.
On est ici sur la terrasse de l'hôtel Côté Sable où Pascal et Rebecca viennent de nous quitter. Un très bon moment passé ensemble, mais on a la ressource puisque nous sommes toujours avec Marc Simonci et avec Alexis. Et puis il y a Clémence qui travaillait sur plein de questions pour le Alexis qui est sur ce fauteuil au Moyen-Âge et qui est donc bastonné pour nous répondre. Tal est à côté de moi et c'est l'heure qui peut être l'ordi.
Oui, oui, je transpire autant que l'ordi.
Bah écoute,
il y a un coup de chaud, un redémarrage.
Ouais. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander à que Simonci? Parce que j'ai plein de questions.
Pourquoi mon ordi marche pas?
Alors non, je vais lui demander qu'est-ce qui distingue selon lui un entrepreneur français d'un entrepreneur américain, par exemple en 2025.
La culture américaine, c'est une culture où l'échec est vu comme une leçon. Et le succès est vu comme la conséquence logique de tout le travail qu'est fait. Donc vous allez aux États-Unis, vous avez deux échecs sur votre CV, le mec vous dit bah super, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu recommenceras pas, pourquoi tu as échoué, qu'est-ce que tu as changé, comment tu t'es amélioré. Alors qu'ici, évidemment, c'est un peu d'éricanement, un peu de plaisir de voir les gens échouer. D'ailleurs, je ne sais plus qui a
dit. Exactement. Il n'y a qu'à voir, toute proportion gardée dans un contexte complètement différent, il n'y a qu'à voir ce qui est devenu Tapie.
Ouais, Tapie, c'était un gars ultra brillant qui a fait plein de trucs, borderline, mais finalement il s'est démené. D'ailleurs, c'est le premier entrepreneur français. Avant Tapie, il y avait des patrons.
C'est vrai.
Et Tapie, quand il était arrivé, c'est devenu un entrepreneur. Et ça a créé une espèce de dynamique qui a mis des années à se développer jusqu'à l'émission que je fais. Mais c'est vrai que Tapie, ça a été le premier entrepreneur français. Il faisait plein de choses différentes et à chaque fois, il réussissait ou il échouait, mais il recommençait.
Avec des idées, comme toi, il surfait sur. Je crois qu'il avait fait la première. Quand les postes de télévision étaient très chers, il avait fait Locatel.
Locatel, c'est ça. Mais même, il avait créé la vie claire, sur le bio.
il y a 30 ans.
Le duo était... Alors, d'abord, il faut le bon moment. Il y a un truc qui est passé sur les mecs.
C'est le timing.
Et voilà. Alors justement, c'est une question que j'ai, qui est comment jugez-vous le bon timing pour lancer un duo aujourd'hui ?
Bah voilà, putain, on dirait qu'on bosse ensemble presque.
C'est le plus dur parce que réussir trop tôt, c'est échouer. Donc il faut lancer. C'est comme le surf. Vous prenez la vague trop tôt ou trop tard, ça marche pas quoi. Ouais, donc une start-up, c'est une boîte. C'est la bonne idée, le bon produit, les bonnes compétences et au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il y en a très peu qui réussissent. Ouais. C'est extrêmement difficile de faire une boîte qui marche.
Il y a un documentaire que tu as dû voir sur Netflix. Alors je me rappelle plus. C'est des gars en fait, qui ont eu l'idée du smartphone avant le smartphone.
Ouais.
Je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont débauché la moitié des gars de chez Apple.
Et
ils étaient 3-4 ans trop en avance. Le problème, c'était le réseau. Ils avaient fait un partenariat avec AT&T. Il y avait le tactile. Il y avait tout. Il y avait tout. Et ils n'ont pas réussi. Et 4 ans après, ou 10 ans après, je ne me rappelle plus, iPhone.
En 2025, Marc, ce n'est pas une question évidente. Tout le monde aimerait peut-être avoir la réponse. Mais quel secteur aujourd'hui a le même potentiel de croissance que l'Internet en 2000 ?
Oh bah c'est l'IA. Bon, les gens n'ont aucune idée de, et j'allais dire tant mieux d'ailleurs,
de ce qui nous attend.
De ce qui nous attend et de la vitesse à laquelle ça va et du vertige que ça va provoquer auprès de tout le monde, le public, les politiques, les gens dans la rue. Y a deux secteurs qui sont vertigineux, c'est l'IA et le quantique.
Ouais.
Si un jour ces deux secteurs
convergent,
si un jour on fait l'IA,
personne ne peut
même pas décrire la puissance de ce bastringue une fois que ce sera réuni.
C'est apprenti sorcier ou c'est maîtrisable ?
Non, c'est pas maîtrisable. Je raconte toujours cette histoire. Il y a un Américain qui a développé une IA pour développer des molécules et il a dit à l'IA, trouve-moi 10 molécules anti-cancer non toxiques. Et donc il est parti se coucher et le matin, il y a 10 molécules qui avaient été créées par l'IA, non toxiques pour l'homme et a priori anti-cancer. Et avant d'aller se coucher, il a dit, mais si j'enlevais le non toxique et je remplace par toxique.
Ouais.
Il est parti se coucher et le matin, l'IA avait créé 10 poisons complètement dingues, avec aucune antidote connue. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc il a éteint son ordinateur et ils ont créé une commission, dont j'ai oublié le nom, aux États-Unis, qui va arbitrer ces problèmes éthiques en disant, si cette IA tombe dans les mains de quelqu'un qui crée un poison en 15 minutes, que personne n'a jamais vu, que personne ne sait
traiter,
c'est une arme de guerre. Voilà. Et donc on en est là. Et c'est vertigineux.
Il n'y a pas d'ordinateur quantique pour l'instant.
Il y a des balbutiements, il y a quelques qubits.
Il y a le qubit, mais.
Ça dit que les ordinateurs quantiques pourraient arriver entre 15 et 30 ans. Avec des puissances de calcul sur certains problèmes vertigineux.
Bon, alors ça c'est un point. Il y a 10 ans, vous m'aviez donc totalement étonné en me racontant un petit peu la méthode Amazon et en disant que si j'appelais, on savait déjà avant que moi-même je sache ce que je voulais acheter, quelle allait être mon intention d'achat. Est-ce que vous avez un exemple identique avec l'IA qui pourrait être absolument hallucinant ?
Bah, je vais prendre l'exemple de la radiographie aujourd'hui, médicale. Vous avez 10 médecins dans une pièce, on leur présente 10 radios, et vous avez une IA, et l'IA est bien meilleure que les... D'ailleurs, à ce sujet-là, la Chine a ouvert hier le premier hôpital où vous rentrez, il y a des écrans et des claviers, et c'est l'IA qui vous soigne.
D'accord, bah, c'est
et
juste dingue.
Ils peuvent faire 100 000, je crois, consultations par mois. Ouverte au public.
Dernier sujet sur cette, enfin, question sur ce sujet, et après on repasse dans notre petit ping-pong à Alexis. C'est que justement, j'ai lu il n'y a pas longtemps que il était dommage que l'IA soit 90% du temps utilisée pour faire du fake, pour faire de l'animation, pour faire des trucs rigolos et des vues sur par exemple les réseaux, au lieu de consacrer justement cette énergie à la médecine, à la recherche, etc.
Alors, ça, c'est ce que le public voit, parce qu'il voit les fameuses vidéos qui sont créées, les fake news, les influenceurs virtuels, tout ça, bien sûr. Mais vous avez des milliers de startups qui développent des applications très pointues sur l'IA et qui sont extraordinaires.
Donc elle n'est pas gaspillée. Elle n'est pas gaspillée.
Non, bien sûr que non. Maintenant, on arrive à un niveau de technologie tel que la vérité n'existe plus. Vous ne pouvez plus savoir si telle personne n'a pas dit ça, n'a pas fait ça. Donc vous ne pouvez plus croire personne.
D'accord. Alors, si Pascal avait été là, j'aurais quand même rajouté que si, la vérité est au bout du couloir.
Derrière le rideau.
C'est ça. Mais toi, en tant qu'artiste, Alexis, justement, l'IA, tu le vois comment ?
Bah, on voit pas. Non, si c'est bien utilisé, c'est comme pour tout finalement. Moi, je suis assez favorable à son utilisation. Mais... voilà,
tu l'utilises ?
Je l'utilise, oui, effectivement. Ouais. Je l'utilise pour faire surtout tout ce qui est un peu pénible, les mails, ouais. les choses comme ça, où ça va très vite. J'ai
les
pas
bonnes
réfléchir.
Blagues.
Oui, on en a tous fait, je pense. Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
De la retouche photo, par exemple, il y a des filtres qui sont des filtres IA qui améliorent une photo basée sur l'IA. On l'utilise sans même le savoir maintenant, quasiment.
Oui, c'est vrai, tout à fait, ouais.
Bah aujourd'hui, les appareils photo intègrent l'IA.
Intègrent, c'est ça. Ouais.
Voilà, donc voilà, c'est la gestion de la photographie va être aussi différente via des nouveaux boîtiers avec des systèmes à l'intérieur, anti-bruit et autres.
Alors c'est pour ça que c'est chouette qu'on puisse faire des expos et des moments, créer des moments comme ça à Bordeaux. Moi, je me bats pas mal pour ça à Bordeaux, pour créer des rencontres entre les gens et autour de métiers artistiques qui nous réunissent en téléphone. Alors certes pour faire un peu d'Instagram, mais en tout cas pour se revoir et matcher autour de valeurs, de choses qui nous émerveillent, notamment donc l'artistique en fait partie. Je suis très contente qu'on puisse faire cette expo ensemble. Donc ça, c'est un peu notre guest news puisqu'on ne l'avait pas encore annoncé. Je travaille avec un client que j'accompagne qui s'appelle la galerie Art Gentil à Bordeaux. J'accompagne sur son modèle assez hybride, qui est un espace événementiel et un espace de galerie artistique. Et tu honores notre rentrée justement avec l'expo qu'on va faire avec toi. Donc j'ai la chance de coproduire et co-réaliser avec toi. Donc en plus, elle est chouette puisqu'elle va être un peu hors série dans la mesure où on n'est pas sur de la peinture, on n'est pas sur de la sculpture, on est sur de la photo. Et en plus, on va mêler un autre univers artistique et la musique pour faire vibrer tout ça. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette exposition justement, Alexis ?
Oui, bah, en fait l'exposition qui aura lieu à partir du 11 septembre, en fait c'est une exposition qui est un petit peu la en fait, A Live Nation, qui va s'appeler.
C'est, qui fait hommage ou clin d'œil en tout cas à ton livre.
Exactement. Et donc c'est toute une série de photos live d'artistes. Ce sera une sélection plus récente
avec un tirage pour on a tablé à 4-5 par photo, pas pour dire en surmonte un peu de collecteur.
C'est 5 photos, alors j'ai bien exposé, il y a 5 photos qui sont déjà pratiquement appelées, mais c'était 5 photos, pas plus.
T'en as pas marre de d'Alexis photo, t'en as pris tu...
Non, mais moi j'ai ce livre d'ailleurs, c'est marrant, j'avais ça dans la maison il y a un mois, et voilà pourquoi j'ai des photos. Et bah tiens, regarde Alexis ce qu'il a fait, donc les gamins ouvrent le bouquin, subjugués par les photos, mais ne connaissent aucun des artistes.
Ah, ouais.
Et le summum est en Kiss,
parce que
la photo qui fait l'unanimité, c'est les gamins de Kiss qui sont extraordinaires. Les gosses étaient là.
Connaissent.
Voilà. Alors là, j'ai essayé de refaire toute leur éducation. Alors, pourtant, eux, c'est très rap. Quoi.
Alors, je précise qu'il y a 3 morceaux de Kiss, les playlists de Verigold Café Ray, et qui ne sont bien sûr pas les plus connus. Hein. Papa le Daube de variété mondialement célèbre. Voilà. Gene Simmons, l'homme avec la langue de 20 cm.
C'est impressionnant, quoi. Comment tu fais pour choisir une photo pour le livre? Ça doit être hyper frustrant, non? De te dire, ok, c'est celle-ci.
Alors moi je ne mitraille pas quand je fais une photo live, j'essaie de trouver surtout un endroit on va dire un peu dégagé de plein de choses, les câbles, les retours et autres, et j'essaie d'en faire des portraits. Donc
c'est compliqué hein, c'est...
Oui, alors en festival on a le droit parfois, suivant les artistes, à un seul morceau pour faire une photo.
Ouais, en plus. Bah oui.
D'autres cas c'est 3. Certains ne veulent pas. Donc du coup, il faut. De toute façon, on doit respecter ce protocole-là. Mm-hmm. Et bon, l'avantage c'est que quand on part avec le groupe, on a les balances. Donc on voit déjà comment un petit peu gérer la lumière, les effets. Et pendant le concert, ça, on sait un petit peu mieux où se placer par rapport à un festival.
T'arrives à te mettre à hauteur de regard ou t'es tout le temps en...
Non, alors où je suis sur la scène. Alors en festival, on ne monte pas forcément sur la scène. On n'a pas forcément les droits dans certains festivals. Mais sinon, je peux être un peu partout. Voilà. Il y a un groupe, par exemple, les Pixies. J'ai décidé de faire que des photos de dos. Ils sont de dos.
Ok.
Voilà.
Bah, ça leur va bien en même temps. Ils sont décalés aussi. Ouais. Argentique, jamais ou un peu.
Non. Alors moi, je suis passé en numérique. L'argentique, j'en ai fait à l'époque quand.
Des belles photos aussi, l'argentique.
À l'argentique, c'est fabuleux. Sauf que maintenant, il faut avoir le temps. C'est surtout quand on fait des photos de musique, c'est que les photos sont dédiées aussi à partir pour la presse et on n'a plus trop le temps de. Voilà.
Maintenant, le numérique a fait d'énormes progrès. On a quand même des capteurs immenses. Tu travailles en RAW. Il a quand même rejoint.
ça reste, c'est comme le petit, il manque le petit craquement du vinyle, c'est-à-dire qu'effectivement le grain de la péloche, mais on peut presque le refaire, on peut le refaire en plus numériquement. Bah,
comme disait Marc, là, avec l'IA aujourd'hui, il y en a qui créent des petits logiciels où on peut réintégrer ce grain, on va dire, analogique. Et
la plupart des filtres que tu trouves sur Internet, c'est pour recréer le grain analogique, hein, souvent.
Avec les références de pellicule, d'ailleurs.
Ouais, c'est bon. Ça.
Oui, c'est ça. Exactement.
La Kodak Eastman 400 ASA.
C'est ça.
Oui.
Marc, tu poses une question.
Non, moi j'ai une question pour Marc. On fait ce petit ping-pong, c'est bien. À toi,
vas-y.
À moi. On vient d'avoir une expérience assez récente, Marc. Donc du coup, on a un avis éclairé. Quelle est, à votre avis, la mobilité urbaine pour les 5 prochaines années? Est-ce que c'est un petit peu le futur de notre mobilité urbaine?
Écoutez, les villes ont fait un pari, c'est d'éradiquer la voiture. Moi, quand j'ai créé ma société de vélo, j'avais parié qu'une grande ville interdirait les voitures particulières avant 5 ans. C'est arrivé. Ouais. Là, on ne s'est pas trompé, d'ailleurs. Ouais. Peut-être un peu trop, parce que ce que les gens ont mal mesuré, c'est l'engouement qu'a eu le vélo, les trottinettes, les villes. Et maintenant, on a créé un chaos total, parce qu'il y a quand même des voitures, il y a quand même c'est des ça. Bus, il y a quand même des livreurs, il y a beaucoup de vélos, et c'est assez compliqué de mettre tous ces gens-là sur des espaces. Alors, ouais. Plus il y a de cyclables, plus il y a de vélos, et c'est saturé aussi, donc là, tout ça va se calmer. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que la voiture thermique dans les villes, elle n'existera plus. Voilà, on ne verra plus de bouchons rue de Rivoli sur 4 files avec le parc Paris qui était le plus grand parking du monde avec des voitures à l'arrêt. Ça n'existera plus.
Et justement, on parlait de l'IA tout à l'heure. L'IA plus la voiture, c'est-à-dire conduite autonome, enlève des bouchons. Parce que les bouchons, c'est la plupart du temps, c'est l'homme qui est responsable, c'est le conducteur qui est responsable du bouchon.
Ouais, après, vous avez des villes, si c'est à Détroit, faire des voitures autonomes, c'est facile. Si vous mettez ça dans le marais avec la place de l'Étoile ou à Rome, vous n'y arriverez pas.
Non.
Mais c'est ceux qui ont bien réussi ça, c'est les Hollandais. Ils ont repensé, parce que si on réfléchit comment ont été construites les villes, au départ, vous habitez dans une maison et vous avez une voiture avec un coffre.
Ouais.
Vous prenez votre voiture, vous déplacez dans un supermarché, vous remplissez un caddie. Le caddie est la taille du coffre.
Ouais.
Donc vous remplissez votre coffre, votre caddie, vous le mettez dans votre coffre, vous arrivez chez vous et vous sortez le caddie dans le coffre et vous le mettez dans le frigo qui a la même taille que le coffre et le caddie. Et donc les gens s'alimentaient comme ça.
D'accord.
Et les Hollandais ont dit non. Maintenant, il vaut mieux qu'on ait un petit panier sur un vélo, une petite épicerie dans le centre de ville, et au lieu d'aller faire 11 km au supermarché, vous roulez dans votre quartier, vous prenez ce qu'il vous faut pour la journée, et vous recommencez ça tous les. Donc, ils ont repensé les villes.
Ouais,
donc, c'est l'urbanisme qu'il faut complètement revoir.
Bien joué.
Et ça, c'est un travail de longue haleine.
Oui, c'est vrai que les villes ont été créées à un moment où on n'avait pas tout ça, et on ne savait pas. Et puis, pendant un moment, c'était la voiture reine, c'était formidable, c'était synonyme de progrès, la voiture.
Exactement.
Alors, laissez-moi vous présenter Jo Luna qui a vaincu les bouchons
monstrueux
de la
bonjour,
route.
Bonjour.
Et Jo, je te présente Marc Simoncini qui est l'inventeur de la guitare en or que tu viens d'acheter. Et puis je te présente Alexis Atteret qui est un directeur de publication, un artiste, un photographe. Et bien sûr Clémence que tu connais déjà.
Salut,
et,
bonjour tout le monde.
Qui surveille Alexis Atteret de très près. Quant à Brutal, bon évidemment, on le connaît.
Ça va mieux ta voix, on dirait, ça va mieux que la dernière fois.
Un petit peu mieux.
Un petit peu mieux.
Ouais, raconte-nous ton périple. Là. Le périple, ça veut dire le voyage.
Oh là, écoute, je suis parti à 9h15 de Bordeaux, 3 heures presque de route.
Ouais.
C'est infernal. Pourtant, j'ai l'habitude de venir ici, mais là, ça a été la totale.
T'as pris la voiture qui ne consomme pas ?
Mais tu la vois devant, là.
Ah mais non, alors c'est quoi comme, on se demandait qu'est-ce que c'était comme modèle.
Aston Martin rapide.
Oui, rapide.
Ah, une rapide, pas une virage.
Tu vois, alors, 4 portes. Oui. C'est une des voitures les plus belles que j'ai vues depuis 20 ans. Bref, donc tu vas maintenant nous montrer ta guitare en or, car
bien
je veux
sûr.
Absolument que nos invités
bien sûr,
voient
bien
à quel point nous avons du gitan riche. Il y a de l'Aston Martin et de la guitare en or.
C'est instagrammable, une guitare en or.
Et Alexis Atteret, mon cher Jo, figure-toi que justement, il est en train de parler d'un ouvrage, d'une expo qu'il a fait sur des musiciens. D'accord ?
Oups.
Alors raconte-nous ça avec le casque sur les oreilles et explique que c'est une vraie dorure et non pas une peinture.
Alors tout à fait. Alors, à la base, c'est une guitare en bois, forcément, bien sûr, mais elle est toute recouverte de feuilles d'or de 24 carats et dorées à leur fin de 24. Voilà, c'est un modèle unique, comme j'avais précisé la dernière fois, au monde.
Ouais.
Donc, c'est un petit rêve d'enfant.
Oui, voilà, je voulais te demander d'où ça sort.
Un petit rêve d'enfant, mais tout le monde me prenait pour un fou.
Mais tu es fou, je te le confirme.
À l'adolescence, pareil, et puis bon, et puis après, au fil du temps, mais... Voilà, ça a été compliqué de trouver quelqu'un qui la fasse, mais Voilà.
Oui, parce qu'elle est dorée de partout, il n'y a pas que la table.
Ah, non, elle est dorée sur tranche.
Même quand tu vois Jolouna ici, les plaques sont aussi tout en.
Voilà.
Tout en. Ah non.
Tout en camon.
Tout en camon.
Je ne sais pas, je t'aide. J'essaie de trouver la suite de la phrase. Bon, quoi qu'il en soit, cher ami, tu nous manquais. Alors, au-delà, parce que tu es sympathique, on va bien sûr finir la partie d'interview qu'était en train de faire Clémence, parce qu'on n'avait pas coupé le kiki d'Alexis, bien sûr, comme ça. Mais en même temps, on est heureux que tu arrives, parce qu'on avait besoin désespérément de pause musicale. Là, ça faisait presque une heure et quart que nous étions en roue libre avec un ordinateur qui marche moyen, donc on ne peut pas trop faire de musique avec. Donc, on a besoin de respirer musicalement. Et donc, entre autres, tu vas nous aider à faire ça, d'accord ?
Avec plaisir.
Eh bien, grand plaisir. Donc, on en était sur effectivement la fin de l'entretien.
Oui, on parlait de notre expo justement qui était à Bordeaux et qui durait un mois, dans lequel on propose à tous nos Bordelais et non-Bordelais de venir rencontrer ton travail, où sur les murs il y aura toutes ces œuvres, en tout cas ces photos qui seront exposées. On décide aussi de créer un vernissage. Alors oui, peut-être, je ne te l'ai pas demandé Hervé, mais tu nous dis oui ou non, on s'est dit avec Alexis que ce serait chouette. De faire gagner de place ce vernissage avec Very Good.
Pourquoi pas, il faut imaginer un système, sur le principe, avec grand plaisir.
Donc, nous fais un petit jingle, tu nous fais quoi là? J'improvise ça toi.
Oui, non, alors tu veux dire à l'instant?
Ouais.
Il faut d'abord trouver ce qu'il faut demander aux gens. Si tu fais des tirages au sort ou des réductions, ici on ne caférait, donc ça n'intéresse pas les gens.
Non, pour le coup, c'est qu'ils s'abonnent, ils s'abonnent au Very Good d'Alexis et après on tire au sort en fait.
On peut faire un truc comme ça.
Donc fais-nous l'annonce s'il te plaît.
Oui, mais alors je ne sais pas ce que je dois annoncer, redis-le-moi.
Tu prends trop en photo ou en vidéo,
en position, donc en vernissage, et on vous offre la possibilité d'y aller de façon privilégiée. Vous serez des invités VIP qui iraient gratuitement, bien entendu, qui sera adressé à votre adresse personnelle. Vous allez avoir la possibilité d'aller sur cette exposition. Alexis, quelle est l'adresse, quelle est la galerie, où est-ce que nous allons?
Galerie Argentier, au 24 rue des Argentiers, à Bordeaux. Très bien, vous allez être allons-y.
Merci beaucoup.
Ma voix et mon interprétation reste. Je perds mes racines, mes origines quand je chante.
Formidable. Tu peux tapoter l'épaule de ceux qui est derrière toi, s'il te plaît. Ah non, il se lève. Parce que je vais prévenir qu'il laisse prendre 10 semaines dans les lancives dans 4 secondes. Attention, s'il te plaît. Allez, vas-y. C'est vrai que tu as fait la démission.
Mira que deseo de tenerte y cada día más y más para el creón que me dite y otro de mi corazón. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Si te vas a marchar, no me enseñes tu pelo, no. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Pénsame, bésame, pénsame. Sabe a caramelo cuando beso tu boca, mi gata tiene calor. Bésame, bésame, bésame. Y mire que deseo de tenerte cada día más y más, para el respeto aún pedirte y dentro de mi corazón. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Si te vas a marchar, no me enseñes tu cuerpo. Me sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame. Sabe a caramelo cuando beso tu boca y tu mirada me tiene la cabeza loca. Bésame, bésame, bésame.
Pour James Bond. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène. C'est avec Sean Connery, donc c'est parmi les premiers. Et donc là, d'abord, les femmes gitanes sont très belles.
Très
belles. Et puis en même temps, il y a une espèce de sauvagerie dans cette beauté. Comment ça se passe, le vrai monde gitan? Parle-nous-en un petit peu.
Il y a ce côté sauvage. Cet instinct sauvage que nous avons, parce que nous aimons notre liberté.
Ouais.
Voilà. On aime vivre sous aucun régime de qui que ce soit. Mmh. Voilà. Et puis la communauté gitane, si tu veux, c'est quelque chose de très spécial à pouvoir comprendre. Mais contrairement à ce que, c'est pas pour défendre la communauté, loin de là, hein, mais contrairement à ce que les gens peuvent croire sur la communauté gitane, du voyage et autres, il n'y a pas que du mauvais. Très loin de là. Il y a des principes et des valeurs qui sont très importante chez nous, c'est-à-dire la famille. Ouais. Que ça soit pour un mot de tête, que ça soit pour faire la fête, on est tous réunis. Que ça soit l'amour et le respect envers les anciens. Ouais. Par exemple, moi je suis assis, j'ai 45 ans, je suis assis, je vois arriver un ancien gitan, que ça soit dans un mariage ou... Dans, voilà. Et je me lève, je le laisse s'asseoir. Les enfants sont chez nous, certes, c'est vrai. Contrairement à ce que les gens disent, on a eu une très très bonne éducation. Bien évidemment, pas tous. Voilà. Mais moi, je sais d'où je viens. Et je remercie mon pauvre grand-père et ma grande famille de m'avoir éduqué. Un bon garçon que je suis aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Tout le monde l'aime. Il vient sur la presqu'île depuis très longtemps. Et je ne connais personne qui n'ait pas une immense affection pour lui. C'est un garçon qui recueille l'amour. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir son sourire. C'est ici d'y désister. Et c'est comme ça qu'il s'est payé une Aston Martin.
C'est le sourire.
C'est exactement comme ça. Alexis, c'est fascinant, non, cet univers-là pour un photographe quand même.
Oui, alors moi je connais peu, je suis plus dans le rock, oui, pop rock. Et...
Cette communauté, ces couleurs, cette culture.
Ah mais c'est je pense qu'il y a du bon dans toute la musique. Dans toute la musique, j'ai fait du jazz, du classique. Musique gitane, j'ai jamais fait en photo. Donc,
d'accord.
Non, ouais. Jamais. Et j'ai failli faire un reportage, alors qu'il n'y a rien à voir avec la musique, sur des portraits, mais pas au niveau musical, ouais. Non, jamais.
Et alors Marc, à propos de mobilité, on était en train d'en parler, on ne pourrait pas des roulottes électriques?
Alors non, mais je suis très très ému parce que j'avais un ami de mon père qui ouais. était espagnol, un peu gitan, et qui jouait du flamenco et qui m'a donné l'amour de la guitare quand j'avais 8 ans. Et donc j'ai acheté ma première guitare comme mon appareil photo, je me suis dit je vais faire comme lui pendant... 20 ans, j'ai essayé de jouer de la guitare. Après, j'ai compris que le flamenco, j'y arriverais jamais.
Oui, ça, oui.
Donc, je suis allé dans la guitare classique, qui est le plus facile. Mais j'ai assisté un jour à un concert au Sainte-Marie-de-la-Mer de Paco de Lucía.
Oui.
Et je ne m'en suis jamais remis. Donc, j'écoute beaucoup, beaucoup de flamenco. Ah. J'adore la guitare espagnole. Gitane, je connais un peu moins, mais on est vraiment dans cet univers.
Alors, Marc,
et
tu vas pas me croire.
Ça me touche énormément.
Mais le grand-père de Jo a un peu appris à Paco de Lucía à jouer.
Ça, je sais pas, mais c'est vrai.
Et mon père, qui a une renommée internationale. Que beaucoup, beaucoup de monde connaît, malgré qu'il a arrêté il y a quelques temps, c'est José Pisa, un des plus grands guitaristes international, ouais, qui était vraiment de très bons amis avec Paco.
C'est une des musiques qui me porte le plus, j'adore ça, j'adore vraiment ça.
C'est-à-dire, excusez-moi de te couper, c'est que c'est pas le tout, tu sais, ceux qui sont musiciens vont le comprendre, mais c'est pas le tout de prendre une gratte ou chanter ou interpréter quelque chose, non. Quand on chante, il faut le faire avec le cœur et son âme, c'est-à-dire de transmettre ce qu'on ressent aux gens. Ce n'est pas le tout de chanter, interpréter, là, 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 là. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime bien, je vais te dire un petit point vite fait, on m'a proposé de faire des soirées où je suis bien payé, dans des restaurants, etc. Il est hors de question. Tu peux me payer 10 fois le prix, je ne le ferai pas. Pour une simple et bonne raison, quand je chante, on m'écoute parce que je chante avec le cœur et je me donne à 100%. Que ça soit pour 20 personnes ou que ça soit pour 15 000 personnes où j'ai déjà chanté devant 15 000 personnes dans des concerts live, en direct. Mais pour moi, que ça soit 20 personnes, là, même là, 5 ou 6 qu'on est, je chante avec le cœur et j'aime bien qu'on m'écoute. Voilà.
Je crois que tout est dit sur ce sujet, en tout cas. Je commence à embêter Marc Simoncini. J'ai préparé encore quelques petites questions. Dans un pitch, quand quelqu'un vient vous présenter quelque chose, quel élément vous convainc instantanément?
La capacité de l'entrepreneur à être désarçonné. Tu sais, quand on présente une entreprise, on a un deck, ça s'appelle. Donc c'est le projet sur 20 pages, page 1, page 2, page 3. Donc quand les entrepreneurs venaient dans mon bureau, ils déroulaient leur pitch par cœur. C'était la 60e fois qu'ils
forcément
le faisaient. Et moi, je disais à l'entrepreneur, tu sais quoi? Commence par la fin.
Ouais.
Et là, tu as ceux qui arrivent à raconter l'histoire à l'envers et ceux qui n'arrivent pas du tout. Et déjà, ça élimine.
D'accord.
Parce que dans une entreprise, rien ne se passe comme c'était prévu. Rien. Ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Ouais. Donc, si l'entrepreneur il est calé dans sa logique et qu'il n'est pas capable de pivoter et de reprendre son projet à l'envers, il va avoir de gros... Ou alors, il faut que ce soit un génie, et il y en a.
Ouais.
Mais sinon, la plupart du temps, il nous arrive des trucs qu'on n'avait pas prévus.
Ah, il faut être souple, prêt à adaptable, voilà, flexible.
Voilà. Donc, c'est ça que je juge en premier, c'est la capacité de l'entrepreneur.
D'accord. Et à l'inverse, quels signaux sont pour vous rédhibitoires?
C'est souvent l'ego. Alors l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et lui dire, bah non, ça va pas marcher ou t'as pas vu ça, et voir la réaction, deux réactions. Mm-hmm. Il y a ce gars qui dit, bah oui, tiens, c'est vrai, c'est pas con, j'avais pas vu ça. Mm-hmm. Je vais peut-être. Et puis il y a ceux qui s'entêtent mm-hmm. dans leur bonne ou mauvaise idée. C'est pas la question, mais mm-hmm. de ne pas être capable d'écouter les avis extérieurs. Mm-hmm. Et Dieu sait que je l'ai beaucoup fait. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de le juger. D'ailleurs,
je suis pareil.
Comme je m'installe au Cap Ferret, je vais organiser des séminaires d'entrepreneurs ici. Je vais les prendre deux jours avec moi, pas pour leur raconter mes quelques succès, pour leur raconter mes nombreux échecs. Mmh. Et il faut être capable de se tromper, de recommencer, de pivoter et d'écouter les mmh. autres, même si c'est pas naturel chez un entrepreneur.
Alors, dernière question pour ce bloc. Quelle est la plus grosse erreur que vous voyez chez les jeunes entrepreneurs et qui se répète encore aujourd'hui?
C'est que dès qu'ils ont lancé leur truc et que ça marchote en France, ils disent tout de suite je vais partir le lancer partout.
Ouais.
Et là, je leur dis non, non. Tu iras en Allemagne, en Angleterre mmh. quand tu seras leader en France.
D'accord.
Il ne faut pas quitter son territoire, c'est l'endroit où on connaît le mieux le terrain. Et il n'y a aucune chance ou très peu de chance qu'un entrepreneur qui est marchoté en France puisse aller réussir ailleurs.
Qui trop embrasse déjà, mal étreint.
Soit déjà un gros en France mmh. et après tu pourras aller à l'étranger.
Ah bah écoutez, je suis votre conseil. Peut-être Alexis peut être à son tour questionné si tu veux.
Un entrepreneur finalement dans ce que tu travailles à ton compte, tu as créé ton entreprise.
Oui, j'ai toujours travaillé à mon compte.
Oui, c'est ça. Ouais.
Fait, ouais.
Et ça fait 35 ans, 40 ans.
Oui, j'ai souvent été indépendant en fait, ouais. En travaillant beaucoup avec avec beaucoup de freelance. Mm. Sauf que après j'ai repris Surf Session il y a 3 ans avec toutes les difficultés d'avoir des personnes qui travaillaient déjà.
Ouais.
C'était une première.
C'est un rachat de société que tu as fait.
C'est un rachat de société, exactement. Et voilà, avec toutes les difficultés, effectivement, de travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément la même vision ou autre. Donc, c'est pas si simple que ça, mais bon, on apprend. Voilà.
Et qu'est-ce que tu peux conseiller, toi, justement, aux jeunes artistes qui arrivent dans notre monde actuel, dans notre monde aujourd'hui? Parce que c'est vrai que moi, je le vois, hein, je le constate dans les masterclass que je peux donner aux étudiants. Il y a 4-5 ans, je demandais combien de personnes voulaient être entrepreneurs. Enfin, il y a 10 ans déjà, personne ne levait la main. Il y a 5 ans, ils étaient 50 000. Et aujourd'hui, il y a une espèce de on peut repartir dans le salariat. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
oui,
alors. Ceux qui veulent vraiment se lancer à leur compte, parce que dès qu'ils ont terminé les études, c'est une envie.
Ben, en fait c'est le travail. Le problème aujourd'hui, c'est que on pense plus aux avantages qu'on peut avoir qu'au travail qu'on peut produire. Donc c'est sûr que quand on prend quelqu'un qui demande les congés, les tickets resto et tout autre, moi je préfère avoir quelqu'un qui me parle vraiment de qu'est-ce qu'il peut amener dans une société.
Plus une question de savoir-être finalement que de savoir-faire, quoi.
Exactement, et c'est pour ça que quelqu'un qui en veut, qui aime son travail et qui se lance à fond, il n'y a pas de raison de ne pas réussir.
Oui, tout à fait.
C'est surtout ça.
Okay.
Et tu vois beaucoup de il y a beaucoup de directeurs artistiques, beaucoup d'artistes qui se lancent, de métiers dans le graphisme qui se lancent, on est d'accord?
Oui, ben les écoles les écoles de design, graphic design sont bondées.
Ouais.
Bon après bien évidemment il y en a, on va dire tous n'auront pas forcément du travail, le niveau est très voilà, mais ça après c'est les écoles prennent pour moi trop d'étudiants dans ce domaine-là.
Ouais.
Malheureusement, des jeunes doués, de toute façon, c'est ceux qui travaillent. Donc, le travail, c'est ce qui revient toujours en premier lieu. Il faut travailler, tout simplement.
Ouais. Malheureusement.
Ou heureusement.
Oui, oui mais tu n'as du pas qu'à faire depuis 30 ans en train de compter les moutons. C'est un petit peu le principe. Bah, je crois qu'on a notre ami Jo, il faut qu'il se rattrape un peu. Donc,
c'est ça.
Maintenant qu'on a compris que Marc était très très fan de la musique,
de la guitare,
exactement. Guitare. Bah, on va tenter de refaire un petit morceau avec la complicité de Brutal qui va nous faire l'ingénieur du son. Allez, vas-y, Jo Luna en direct de Vérigo de Cap Ferret, Bain de Soleil, direct côté sable.
Vas a empezar yo otra vez. Dime si en algo yo te he fallado. Dime si Si vas a empezar otra vez, mejor déjalo como ayer, mejor déjalo como ayer. Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado, dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez tú me ves llorar, si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado, dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez la herida que no se rompe no cura el tiempo ni olvido, a sola vacía dejaste mi vida al dolor. Y otra vez mi corazón de nuevo le tocó perder, besos que te di con sabor a miel, ¿dónde está mi sueño? Y otra vez mi corazón de nuevo le tocó perder, besos que te di con sabor a miel. Si alguna vez me ve llorando y dile que la quiero, que estoy enamorado, dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez, si alguna vez me ve llorando y diré que la quiero, que estoy enamorado, diré que no puedo olvidar el pasado. Y otra vez mi corazón de nuevo le tocó perder, besos que te di con sabor a miel, ¿dónde está mi sueño? Y otra vez mi corazón de nuevo le tocó perder, besos que te di con sabor a miel, ¿dónde está mi sueño?
Jean Luna, mesdames et messieurs, en direct de Very Good Cap Ferret sur la terrasse de Côté Sable pour l'émission Bain de Soleil, avec toujours mon brutal qui jongle avec les micros et la technique.
Très bien,
Simoncini qui, sur son visage de joueur de poker, a quand même laissé transparaître quelques émotions. Et puis Alexis Atteret qui, évidemment, se dit mais qu'est-ce que j'ai foutu de me taper des rockers tout ce temps-là alors qu'il existe aussi des joueurs de flamenco. Et oui, hein, Clémence, t'as vu ça, ouais. On peut avoir tous son
on
chemin de Damas.
Pages,
et c'est aujourd'hui que Saint-Paul est tombé de cheval et a découvert le Christ. C'est un petit peu l'histoire. Alors, cher Jo, est-ce que tu veux faire des disques? Est-ce que tu fais des disques? Est-ce que tu vas faire des disques?
Et écoute, disques, albums, il y en a un en principe de prévu pour début d'année.
Ouais.
Voilà. Enfin, il y a deux titres qui sont sortis, le fameux Wallo.
Ouais.
Puis par contre, qui a très très bien marché parce qu'il a été même dans des compilations avec Willy William, Daddy Yankee. Et fait plein de grands artistes internationaux quoi. Et oui, c'est encore. Il y a eu Bonbon qui.
Ouais.
Voilà.
Qui nous l'est cassé un peu.
Qui nous l'est cassé un peu. Ouais, ouais. Mais comme je t'avais expliqué la dernière fois, c'est. Ouais. Ça n'a pas été du bon marketing dessus.
Non, mais surtout, tu as dit tout à l'heure que tu avais envie de mettre ton âme à nu.
Tout
et
à
dans
fait.
Certains morceaux, il n'y a pas ton âme, donc ça ne vaut pas la peine.
Ça ne vaut pas la peine. Et tout à l'heure, si je te refais un morceau, comme tout le monde connaît, on fera My Way tous ensemble.
Allez, on fera My Way tous ensemble, qu'on avait un peu entrepris la dernière fois avec Fanny Leb, ce qui avait donné un duo juste absolument incroyable. Donc, Marc Simoncini, félicitations. Je vois que vous êtes bien accompagné. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir
Ingrid.
Très bien, bienvenue Ingrid, et si vous avez envie d'ajouter un mot ou d'entendre ce qui se passe, vous pouvez même prendre un casque et vous allez voir que vous allez tout de suite faire partie de la famille, comme le dit comment, vous ne savez rien sur quoi ?
Elle sait lire sur les lèvres.
Ah bah écoutez, avec un micro devant c'est plus difficile. Là vous nous entendez bien ? Eh ben génial. Donc bienvenue Ingrid, et nous on peut continuer. Donc Alexis, donc moi on s'est un peu parlé déjà, je le disais l'an dernier. Il y a ce côté un petit peu d'avoir refondu, on l'a un peu dit tout à l'heure, Surf Session, c'est des purs et durs les Bascos quand même. Donc après 20 ou 30 ans de Surf Session où on avait du reporting pur, où on avait du Gibus de Soulstray et compagnie, il a fallu sûrement faire une petite révolution, mais en gants de velours.
Oui, bah l'évolution en fait du média s'est tournée maintenant vers le digital. Alors on a toujours la version papier qu'on a rendue beaucoup plus... haut de gamme, plus culturel également. Mm-hmm. À l'époque de Gibus, c'était on va dire c'était plus de l'actualité.
Ouais.
Sauf qu'aujourd'hui l'actualité on l'a en direct que ce soit sur Instagram, sur différents sites. Donc nous on traite plus à cette partie culturelle. Voilà.
D'accord.
Donc que ce soit la musique, l'art, bien évidemment le surf et toute cette culture surf qui se trouve autour.
Bien évidemment. Et alors, est-ce que justement ce grand écart que vous faites parfois entre Bordeaux et la côte basque vous amène à faire aussi un grand écart intellectuel? Parce que culturellement, ce n'est pas tout à fait les mêmes endroits.
Mais en fait, on surfe partout. Donc la culture, il y a une énorme communauté en Bretagne, par exemple.
Ouais.
Il y en a.
Moins connue, c'est vrai.
Qui est très forte. Nous, sur la côte atlantique, de toute façon, tout le long, ça surfe. Donc, elle s'est élargie. Voilà. Le surf n'est pas que Biarritz ou Osgore, c'est un petit peu partout. Même en Méditerranée, on peut surfer. Donc, culturellement, c'est beaucoup plus large.
Okay. Oui. Alors, surfeuses et surf sessions, on les trouve toujours en kiosque.
Exactement.
Au numéro ou en abonnement?
En numéro ou en abonnement.
Et donc on peut aussi s'abonner, mais alors cette fois-ci qu'en numérique ou aux deux?
Non, ça le numérique pour l'instant c'est gratuit, on consulte, il faut y retourner régulièrement.
Surfsession.fr.com.
Surfsession.com, okay. Exactement.
Très bien, et donc le reste en kiosque.
Et le reste en kiosque, tout à fait.
Marc Simoncini, il disait tout à l'heure qu'il avait comme livre d'accueil, parce qu'on pose parfois des beaux livres sur les tables basses dans les demeures quand les amis attendent, ou chez le Toubib. Non, chez le Toubib, c'est le Paris Match de 1939, donc c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'on a comme type de livre, justement, d'accueil comme ça, à part ceux de Alexis?
On a pas mal de livres d'art, parce qu'il y a toute une période de ma vie où j'ai acheté de l'art, donc voilà, beaucoup de pas mal de photos aussi, Alexis, puis d'autres. Et puis aussi beaucoup de littérature. Alors ça, les gens ne les ouvrent pas parce que c'est long.
C'est pas des fausses bibliothèques avec les deux.
J'ai connu un animateur célèbre de télé dont l'appartement c'était des livres collés.
Quelle horreur.
Collés. Il y avait toute une bibliothèque entière. Tout était collé. Mais non, c'est des vrais livres.
Des vrais livres.
Voilà, mon épouse lit. Moi, je lis beaucoup aussi. Enfin, je lisais beaucoup. Ouais. J'essaye de m'y remettre un peu. Ouais. Voilà, donc, beaucoup de littérature aussi.
Bon, tiens, en ce moment, il y a une signature à la Maison de la Presse en ce moment d'un monsieur qui s'appelle Patrice Chazot et qui écrit un livre qui s'appelle Étrange affaire sur le bassin. Donc, il doit encore rester quelques exemplaires et quelques ordres dans son stylo pour qu'il puisse vous dédicacer son livre. Alors, est-ce que justement, en été, on lit, Marc?
Oui, c'est même la meilleure période avec le plus profond de l'hiver à la montagne. Mais on lit pas mal. J'arrive à rattraper un peu le
retard. On lit quoi? Du polar, du roman économique?
Je lis des romans. D'ailleurs, j'en ai deux qui m'ont frappé cette année. Ouais. C'est Leçon et Bien-être, deux auteurs anglais, anglo-américains. Je sais pas, franchement, lisez Lessons en anglais et Bien-être en français. C'est deux romans extraordinaires que j'ai dévorés un l'hiver et un l'été.
Très bien. Donc, il est librophage, il mange des livres. Et toi, mon cher ami Alexis, tu produis, tu fais des livres, tu fais des photos, tu mets du contenu de livres, mais est-ce que tu en ingurgis aussi?
C'est livres d'art, photos, art, architecture. Okay. J'ai une très grosse collection.
Oui, parce que dans mon site que j'ai un peu exploré quand même hier soir, j'ai vu que tu avais un chapitre sur architecture, entre autres. Donc tu as fait Mariadec, qui effectivement, vu de loin, est assez moche, mais quand il est bien photographié, ça devient intéressant. Et puis tu as fait quelques musées un peu spéciaux.
Oui, Mariadec, c'est à Bordeaux, c'est vrai que c'est pas l'endroit le rêvé, mais finalement, les bâtiments. Vraiment sur l'angle de la prise de vue peuvent être très très intéressants. Et après j'ai fait Guggenheim, j'ai fait New York, j'ai fait pas mal de guichets.
Alors justement quand on a connu une certaine réussite sociale, économique, est-ce que justement on a un accès facilité vers l'art?
Moi j'ai toujours été très curieux de plein de choses, de la musique classique, la littérature, la guitare, jamais bien réussi dans aucun des trucs, mais je suis vraiment. Et un jour j'ai croisé sur ma route un copain à moi qui était lui vraiment un gros collectionneur et ça m'a intéressé. Et pendant 5-6 ans, il m'a appris, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup acheté. J'ai découvert cet univers, ça a duré quelques années et c'était formidable. Mais je pense qu'il faut être initié par quelqu'un. La guitare, c'était mon voisin qui venait jouer du flamenco et ça m'a donné envie.
C'est un point commun. Tout à l'heure, vous lui disiez, Alexis m'a appris à faire de la photo, un ami qui vous
c'est a toujours les pas.
Au départ, vous vous mettez dans la position du disciple.
Oui, mais c'est une rencontre. Vous avez un gars qui vous dit, tiens, j'ai une idée. Vous dites, tiens, ton idée n'est pas con, ça fait une rencontre.
Okay,
on ne crée pas des boîtes tout seul.
Okay, alors, quel est le grand chef d'entreprise? Quel tycoon vous a impressionné dans les affaires?
Étonnamment, c'est lui. Que je ne connaissais évidemment pas, il était plus âgé que moi, mais je lisais tous ses bouquins et à la fin de sa vie, moi je l'ai côtoyé tout au long de ma carrière, mais de loin, et puis à la fin de sa vie, quand il a été très malade, on a renoué des liens, je l'ai beaucoup vu, Donc je peux dire que c'est rien qu'il a fait. Mais il était très fier que dise que c'est lui qui m'avait inspiré.
Ah, c'est bon.
Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment brillant.
Alors est-ce que vous trouverez que j'amuse si je propose à Jolouna de faire sérénade Ingrid, elle vient d'arriver, ce serait la moindre des choses qu'un beau gitan lui fasse une petite comptine musicale. Et justement, tu voulais partir sur quelque chose d'un petit peu moins enthousiaste que tout à l'heure. Tu voulais nous faire ta version de My Way, c'est ça?
Exactement. Alors, voilà. Parce que c'est un titre que tout le monde connaît.
Donc une spéciale dédicace pour Ingrid, figurez.
Tu veux dire que maintenant la fin est proche? The final curtain.
Version espagnole, attention.
Parce
que l'anglais, c'est pas mon
fort. Non, l'anglais, je la connais pas.
No hablo espagnol.
Est-ce que Ingrid assumera d'être sur les réseaux sociaux?
Yo sé que no vendrás, por eso yo tanto lo olvido. Dejaría vives ya y de este mundo. Dejaría vives ay de este mundo. De tristeza y dejar y la vives a mi manera. Yo quiero ser ya y nada más. Prefieraré y recordar mejor, tanto mejor. Quisiera olvidarte todo lo mejor. Quisiera vivir ya y nada más, ya mi manera. Lola y lola, lola y lola, lola y lola. Mi manera, lo la y lo la, 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 ya mi manera.
Heureusement qu'on a des bons micros. Hein.
Merci beaucoup.
Ça, c'est pas de la corde vocale, je sais pas ce que c'est. Ouais.
Alors, c'est du direct. J'ai eu un bug, j'ai confondu les accords au début.
Ouais, tu sais quoi, nous, on s'en est pas rendu compte. Hein.
C'est pour ça que tu parles fort, on n'entend plus la guitare, c'est parfait. Non, mais blague à part, c'est incroyable. Vraiment, j'aime ça aussi.
Il y a 2 cm de micro.
Voilà, bah, du coup, Ingrid a refait une partie de son retard. Elle a vu qu'on avait avec nous un artiste. Exactement. Bon, ben c'est pas mal, on est bientôt au terme de cette émission, il nous reste une petite ligne droite à assumer ensemble, donc c'est peut-être le moment donc, des rendez-vous, on va revenir là-dessus Alexis, bien évidemment, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va se retrouver, on va redire les dates, on va redire les lieux, s'il vous plaît. Donc c'est le moment, allez-y, regardez ce truc, ça s'appelle un micro.
Oui, bah, du coup l'exposition c'est aux Antilles le 11 septembre,
ouais.
Voilà. Et l'exposition va durer un petit mois.
Un petit mois,
ouais,
très bien.
Voilà.
Donc Clémence sera bien sûr présente au vernissage, et puis bah, en support je suppose fréquemment.
Ouais, en support et aussi on organise pendant cette expo sur le monde, on organise une rencontre intime justement avec l'artiste.
Ouais.
On propose une trentaine de places pour des personnes passionnées et qui peuvent venir rencontrer Alexis. Et donc, c'est avec toi que je ferai cette discussion pour qu'on puisse échanger avec notre public.
Très bien.
Salut.
Marc Simoncini, il a toujours une idée en réserve. Il a dit tout à l'heure, je me repose un peu. Non, j'en ai un peu marre. Ou alors vous avez quand même un ou deux trucs sous le coude.
Non, alors, d'abord, je suis toujours partenaire d'un fonds d'investissement qui s'appelle Daphni, qui investit beaucoup dans des très belles sociétés. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une des activités. Là, mon karma, c'est de transmettre mon expérience.
Ouais.
Et donc, je profite d'être au Cap Ferret pour créer un système de mastermind. Je vais inviter 6 entrepreneurs à passer 2 jours avec moi au Cap.
Bon, ça.
Et pendant lesquels, 2 jours, on va parler de leur projet et puis essayer d'écouter mon histoire et voir s'il y a des points communs et des erreurs que j'ai faites que je pourrais éviter. Voilà. Donc, j'essaye de lancer cette activité et d'organiser le premier mastermind en fin septembre.
Okay. Voilà. Et ça a une vocation d'être diffusé ou c'est juste en cellule
c'est en cellule intime. Après, libre à eux de diffuser quelques extraits s'ils veulent, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est de passer 2 jours avec un entrepreneur qui a fini sa carrière pour voir ce qu'ils peuvent rendre de tout ça et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir. Et
d'accord, donc rendez-vous, j'ai envie de dire, dans les cellules de Mastermind. Et je pense que pour les futurs candidats ou en tout cas participants à cette activité, vous verrez, vous n'êtes pas dégueu. Il faudra avoir l'occasion de la fréquenter. Toi, tu as un concert bientôt, Jo, comment ça se passe? On t'entend bientôt.
Eh bien, écoute, au mois de septembre, je dois faire 2 gros concerts en Espagne.
Oui.
Voilà, un à Barcelone et un autre à Madrid.
Ok, oh, bah ouais, des petites villes.
Voilà, tout à fait. Et donc, mais si tu veux, c'est toujours un petit peu délicat, comme je t'avais expliqué la dernière fois. Je subis encore une intervention des corps vocales.
Oui, t'as des polypes, ouais.
J'ai des polypes que je me suis fait pour opérer une fois.
On a rendu tout à l'heure le fait que tu n'avais plus de voix.
Oui. Mais ça pourrait aller mieux.
Oui, 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 c'est vrai. Ok, d'accord. Tu as tous ces petits soucis, effectivement, de corps vocales, mais des deux gros rendez-vous en septembre en Espagne.
Voilà.
Ok. Joluna, bien sûr, sur tes réseaux sociaux.
Tout à fait.
Et puis, mon petit doigt me dit que tu vas parler de cet petit instant passé ensemble dans pas très, très longtemps. Alors, pour finir, Alexis Attré, c'est quoi la journée type de vacances? Là, on va faire quoi cet après-midi?
Surf.
On va manger avec Clémence déjà.
Ouais, on va faire un bon déjeuner, mais puis peut-être à l'eau, suivant les conditions. C'est pas des grosses conditions aujourd'hui, mais sinon.
En surf.
En surf. Un petit board pour moi.
Petit mètre. Marc, la journée type d'un surfing en vacances avec une grille tout le coude.
Ouais, bah écoute, moi je nage le matin, j'essaye. Sinon, je fais du foil si le bassin est plat. Et okay. Je travaille un peu à distance aussi, donc quand j'ai des mails. Et puis, je fais beaucoup de vélo. Mais là, il y a un peu trop de monde sur les pistes cyclables.
Et puis, elles sont interdites là.
Cauchemar.
Ah bon?
Ah, elles sont vigilance orange.
Rouge.
Oui, rouge incendie et orange climat.
J'attendrai le mois de septembre pour aller rouler.
Ouais, c'est au moins jusqu'à lundi. De 14h à 20. Enfin, non, de 8h, pardon, à 19 ou 22h.
Je vais faire
tennis, alors c'est encore pire. Il y a beaucoup d'eau, mais c'est permis, on est d'accord. Écoute, pareil, quoi. On va d'abord faire la petite dédicace aux Jean-Phil. Il écoute,
tout à fait, tout à fait. Mais il a donc il s'est rompu le tendon d'Achille pour info au padel, super sport.
Il a qu'à faire du foil,
exactement. Mais je crois que c'est parce que quand Alexis lui vient faire une traversée avec Marc. Qui s'est rompu d'un coup, tu vois. Genre, bon, non, il s'est pas défilé, mais en tout cas, oui, on pense très fort à lui, puisqu'il s'est fait opérer hier. L'hôpital a très bien pris soin de lui, l'hôpital d'Arcachon. Et parmi nos milliers d'auditeurs, je sais que c'est lui qui nous écoute sur ce créneau très, très fort, puisque c'est ce qu'il m'a dit, de passer un bon moment et qu'il nous embrasse.
Bon, donc on pense à lui très fort et on espère évidemment, même si c'est long, que ce rétablissement se fera de la meilleure des façons. Oui. Et puis, on va quand même te rendre hommage à toi aussi.
Merci.
Parce que tu nous as d'abord lancé l'âge, et puis dès que tu l'as pu, tu es venu nous rejoindre ici. En navette maritime, et tu es venu un petit peu embellir, agrémenter cette émission qui besoin d'un rayon soleil supplémentaire, fortiori les jours gris.
Tu me regardes plus.
Bien entendu, Clémence, on va rester en contact permanent puisque tu es quand même là en cheville, des émissions au quotidien avec la cellule, Instagram, etc. etc. Ouais. Mais c'est peut-être, qui sait, après tu reviens quand tu veux, mais c'est peut-être une des dernières fois qu'on t'entendait au micro pour cette saison.
Là, oui, ce qu'on s'est dit, c'était qu'aujourd'hui c'était ma dernière.
Ouais.
Tout à fait. Mais quand même, préciser que c'était ma première interview en direct.
C'est ça. Qui s'est très bien passé.
Oui, tout à fait. Je suis très contente de l'avoir fait avec toi, Alexis. Du coup, on a essuyé les plâtres pour notre discussion qu'on fera à bord ensemble devant un parterre de public.
Ouais, parfait.
De personnes. Bon. Merci beaucoup pour cette expérience. C'était vraiment génial.
Merci à toi. On est très, très heureux de t'avoir dans l'équipe cette année. Et on espère évidemment que c'est une belle et longue histoire. Ouais. D'ailleurs, on va te balancer quelques petits applaudissements pour te remercier. Voilà, avait soustrait à des vacances ces heures de travail supplémentaires. Et en tout cas, Jo, merci d'avoir fait toute cette route aussi. Parce que pendant 3 heures, une demi-heure, fallait partir à 6 heures du mat. Marc va se recroiser par là, bien entendu, qui ira peut-être se poser avec un DJ ou devant Jade de Boy, comme ça lui arrive de temps en temps. Il vient baronner, là, pour voir comment va la tôle, un petit peu, tu vois. Et puis Alexis, même si on ne se recroise pas, en tout cas, on se verra au pire en septembre, donc évidemment, à la galerie là-bas aux Argentiers.
Oui, moi je suis là de toute façon, donc on va se croiser.
Très bien, j'ai repéré la bagnole de toute façon. Merci à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec les meilleurs playlists du monde sur VLKRS maintenant. Et puis nous, on va faire la petite photo de groupe. Merci Brutal, à bientôt.
Voilà, bonne soleil sur le café, c'est bon lui. Mais de la plage, je m'y suis pas. Je me tourne, je n'ai pas passé à la plage. Mais vous rafraîchissez votre tête. Mais les pauvres, ils pensent au travail. Mais mieux, tout le large, je retrouve la plage depuis plus. C'est la salle du village.